السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chers sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir de nous réunir dans sa mosquée Bayt min Buyutillah Azza wa Jal avec comme unique objectif l'étude de la sira de la vie de son bien-aimé Al-Habib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En introduction, il n'y aura rien de plus à rajouter que l'intervention de Mouna Mujahid. Il est où Mouna Mujahid? Brillante intervention, barakallahu fik. Il a résumé un petit peu l'intérêt de la sira et l'importance pour le croyant d'avoir un alaqa, une relation avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a eu surtout raison de rappeler que l'objectif de l'étude de la sira n'est pas uniquement de passer en revue des faits historiques, de connaître des dates, de connaître des événements, le déroulement, le nom des personnages, contrairement à un cours d'histoire. L'objectif, c'est vraiment d'analyser chaque attitude, chaque comportement de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes situations de sa vie. Comme on avait expliqué il y a trois semaines, il y a des fois où le prophète alayhi salatu wa sallam, durant sa vie, a connu des moments de difficulté lors de Am al-Huzn, l'année de la tristesse, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam perd la même année son épouse bien-aimée Khadija radiallahu anha et son oncle, celui qui garantissait sa protection bi-idhnillah, Abu Talib. Comment le prophète alayhi salatu wa salam a-t-il réagi? Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam réagissait d'une façon générale face à la mort? Aujourd'hui, la salatul Jum'a, on traitait un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, hadith qui est connu mais qui subhanallah nous interpelle et nous fait réaliser quelle était l'attitude du prophète alayhi salatu wa salam dans les moments d'extrême angoisse, dans les moments extrêmement difficiles, des situations où on aurait eu beaucoup de mal à prendre du recul, à adopter la bonne, attitude. Mais notre prophète alayhi salatu wa salam était notre qudwa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Notre prophète alayhi salatu wa salam était notre guide, pas uniquement dans l'accomplissement des bonnes actions, pas uniquement de l'akhlaq, de le comportement, mais également de la façon de gérer les sentiments, dans la façon de gérer le stress, de gérer l'angoisse, de gérer la tristesse, al-huzn. Un sahaba vient voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui annonce la nouvelle que sa fille lui fait appeler, dit que mon fils est en train de mourir. Il est dans le rarara, il est dans l'agonie de la mort. Le prophète alayhi salatu wa salam demande à ce sahaba de retourner voir sa fille et de lui apporter cette nouvelle, de lui répéter cette phrase. Sois patiente, endurante, attends la rétribution d'Allah Azza wa Jal à travers cette épreuve. Parce que, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Lillahi ma a'ta. Tout ce qui existe de ce dunya, chaque âme qui respire, qui vit, bénéficie de la vie par la grâce et la bonté d'Allah Azza wa Jal. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal reprend un ruh, reprend l'âme d'une personne, c'est là le droit d'Allah Azza wa Jal. C'est sa décision. Déjà à travers ces deux phrases, Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend le message prophétique, le message de son père qui lui fait réaliser que si tu avais cet enfant, ben il était de ton devoir de remercier Allah Azza wa Jal qui te l'a donné. Maintenant qu'Allah le reprend, c'est le droit d'Allah Rabbul Izza de reprendre un ruh, l'âme qu'il a envoyée sur ce dunya. Et enfin, le prophète alayhi salatu wa salam conclut ses conseils à l'attention de sa fille, fasbiri wahtasibi, fais preuve de patience et fais preuve d'endurance. Quelques instants après, le sahaba qui a apporté la nouvelle à la fille du prophète alayhi salatu wa salam revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que ta fille te réclame, elle a besoin de son père auprès d'elle dans ce moment difficile. Imaginez, Allahumma afia, Qu'Allah nous protège. Allah nous protège. Imaginez, vous avez un enfant de 5 ans, 6 ans, il tombe malade, il a un problème de santé, et que vous voyez votre enfant agoniser dans vos bras. Quel degré de foi, quel degré de iman, de yaqin, quelle confiance en Allah on doit avoir pour surmonter cette épreuve et pour s'en remettre à Allah Azza wa Jal. C'est un discours facile à faire. Ce sont des conseils qu'on va donner facilement aux gens. Mais vivre cette situation, c'est quelque chose de terrible. Et la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de vivre cette situation et elle fait appel à son père, alayhi salatu wa sallam, pour la soutenir dans cette épreuve. Le prophète alayhi salatu wa sallam va voir sa fille. Et le prophète alayhi salatu wa sallam arrive et prend l'enfant dans ses bras. Et dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il est décrit que le prophète alayhi salatu wa sallam percevait les derniers souffles de cet enfant qui respirait avec difficulté. Imaginez, c'est quoi avoir votre fils, votre petit-fils dans la main et vous le voyez agoniser de le rarrar. Il est en train de respirer avec difficulté et son âme est en train de quitter son corps. Qu'est-ce que l'homme ressent? À ce moment précis, le prophète alayhi salatu wa sallam se met à pleurer. Il y a des larmes qui coulent de sa joue, Mubarak. Et les sahaba qui étaient autour du prophète alayhi salatu wa sallam sont interpellés par cette réaction. Il dit, ô prophète d'Allah, ma hadha ya Rasulallah. Il pensait que pleurer, que manifester sa tristesse, ça voulait dire qu'on n'accepte pas le décret, le destin. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, par une réponse très claire, très humaine et spirituelle en même temps, parce que c'est ça le juste milieu. Il y a la spiritualité et il y a le côté humain. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit aux sahaba, hadihi rahma. Ça c'est la rahma, ça c'est l'amour qu'Allah met dans le cœur de chaque être humain. Et on doit trouver cette rahma, cette clémence, cette pitié, cet amour dans le cœur de chaque mu'min. Et à travers cette réponse, les savants, subhanallah, ils ont écrit des textes, des commentaires pour nous faire comprendre que l'homme, que le mu'min se doit d'analyser le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ce genre de situation extrême qu'une personne peut vivre peut-être une seule fois dans sa vie et qu'Allah protège, que jamais ça nous arrive. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam, uswatun hasana, même dans ces moments-là, nous a montré comment réagir. Et c'est une réaction adaptée. Et c'est là l'objectif de la sira. L'objectif de la sira, c'est de décrypter, d'extraire des événements historiques le comportement prophétique. Parce que le comportement prophétique n'était pas un comportement miraculeux, n'était pas un comportement surhumain. Allah Rabbul Izza nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas envoyé Jibril ou Mikaïl ou Israfil. Si c'était les anges qui devaient propager l'islam, on aurait été incapable de mettre en pratique le sunnah. On aurait été capable de suivre les recommandations, de respecter les interdits, parce que ça c'est le discours, on peut le faire. Mais maintenant, les prendre comme modèle, comme qudwa, ça aurait été impossible. Parce que ce sont des créatures différentes, hommes et anges. On n'est pas constitués de la même matière, on est fait de terre, eux ils sont faits de nour. On a des attentes, on a des faiblesses. Les anges n'ont aucune faiblesse, ce sont des créatures parfaites qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal. Donc il y aurait un décalage. On aurait été incapable de suivre ces gens. Mais Allah Azza wa Jalla nous a envoyé un homme, un être humain, avec des sentiments. Et le prophète alayhi salatu wa salam, ça c'est la décision d'Allah, que cette douleur le touche à ce moment précis, pour que ce soit une leçon pour l'humanité, comment réagir face au décès d'un enfant, d'un fils ou d'un petit-fils. Les sentiments existent. L'islam ne demande pas l'aliénation des sentiments, que ne soyez pas triste, qu'il n'y ait pas une goutte de larmes qui coule, ça aurait été inhumain. Comment demander à un papa ou une maman de ne pas manifester de la tristesse lors du décès d'un enfant? C'est impossible. Mais notre prophète alayhi salat nous montre que pleurer, c'est tout à fait normal parce que nous sommes des êtres humains, nous avons tous un cœur. Mais le cœur est avec Allah. Nous savons pertinemment que c'est une épreuve. Et l'épreuve, elle vient d'Allah. C'est Allah qui a décrété que cet enfant meurt à cet instant. Et personne n'aurait pu éviter cette situation. Et que si on est sabir et muhtasib, on fait preuve de patience et d'endurance, Allah nous rétribuera le jour de Qiyam. C'était là le message qu'il a véhiculé aux sahaba et qu'il a véhiculé à l'ensemble des insans, des mu'mines, des ya ayyuhal ladina amanu. Ça, c'est un des objectifs de la sira. Allah Azza wa Jal décide qu'à Al-Madina Al-Munawwara, on verra ça dans à peu près au milieu du programme, notre prophète alayhi salatu wassalam est atteint de sihr, de sorcellerie. Comment le prophète alayhi salatu wassalam a réagi dans ces moments où il était très malade? Là aussi, c'était une hikma, une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal, et une leçon pour l'ensemble des sahaba, pour l'ensemble des croyants jusqu'au qiyama, pour qu'on réalise que ça c'est haq, c'est une réalité, et au cas où quelqu'un est atteint, comment réagir et comment se protéger. C'est ça l'objectif de dirasat as-sira an-nabawiyya, de l'étude de la sira. Ce n'est pas mémoriser encore une fois des dates ou des événements, ou connaître parfaitement l'ordre des différentes campagnes, depuis Badr jusqu'au dernier, là, wallah. C'est savoir dans chaque situation de difficulté, là on a vu des situations de difficulté, mais dans les situations de fatah, hein, où il y a des ouvertures, je pense que c'est Mouni Bilal qui avait fait Fath Makkah. Mouni Bilal, Fath Makkah. Est-ce que Fath Makkah, est-ce que c'était pas là le moment le plus, est-ce que c'est pas l'aboutissement presque de la mission prophétique? Tout le monde sait l'importance de Makkah. En expliquant aussi, il me semble qu'on avait fait allusion à ça là, il y a 3 semaines, l'importance de Makkah pour l'ensemble des Arabes. Maintenant, récupérer Makkah al-Mukarrama et enlever enfin de Makkah les 360 idoles qu'il y avait autour de la Kaaba, chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne supportait pas, mais qu'il devait voir depuis qu'il était tout petit, jusqu'à ce moment où il va faire le Fath Makkah, il va conquérir, il va récupérer Makkah. C'est un moment exceptionnel pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans ce moment de joie intense où il a en face de lui les Quraysh, c'est un Quraysh qui lui tient tête depuis 20 ans, 21 ans, depuis que Iqra a été révélé, depuis qu'il est monté sur la montagne de Safa. Pour expliquer c'est quoi l'islam, il y a des gens qui l'ont insulté, qui l'ont fait du tort. Et ils étaient tellement jaloux qu'ils ont même envoyé des polythéistes au Habasha, en Éthiopie, pour désinformer le roi à propos de l'islam. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour assassiner le prophète Ali, salat wa salam, pour qu'il ne puisse pas quitter Makkah pour aller à Madina. Ils ont mené des batailles, des guerres, Badr, Uhud, Khandaq, et ainsi de suite, Ahzab contre le prophète Ali, salat wa salam. Et en finalité, le prophète alayhi salat wa salam les retrouve en face de lui. Et notre prophète est en droit de les exécuter. Notre prophète est en droit de les emprisonner. Notre prophète alayhi salat wa salam va adopter une réaction prophétique. Une réaction remplie de rahma, d'amour, de clémence. Pareil pour Taif. Là, on revient à une situation de crise, une situation terrible. Notre prophète alayhi salatu wassalam se fait insulter, il se fait agresser physiquement, alors qu'il n'a rien dit de mal au Banu Thaqif. Notre prophète alayhi salatu wassalam a la possibilité de faire détruire ce peuple entre l'Arshabain, les deux montagnes, mais notre prophète préfère lever les mains et demander à Allah d'accorder la guidée aux prochaines générations. C'est ça, as-sira. C'est adopter le comportement prophétique dans toutes les situations vécues par le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous ont été transmis par le biais des versets du Coran, par le biais des hadiths, par le biais des kutub de sira, avec pour objectif de pouvoir les appliquer dans des situations qui ne seront peut-être pas identiques, mais des situations qui vont se rapprocher de notre vie. Ainsi, nous allons mettre en pratique لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Nous allons mettre en pratique. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع. On parle beaucoup d'اتباع السنة, suivre la sunna. Mais suivre la sunna, mes chers frères, ce n'est pas uniquement porter la barbe. Suivre la sunna, comme on l'a dit il y a 3 semaines, c'est pas uniquement mettre le kandou, le qamis, le kafni, le bazou, comme vous voulez l'appeler. C'est pas uniquement manger de la main droite, manger par terre. C'est pas uniquement siwak, j'ai oublié là-bas, il faut que je récupère, c'était un œuf. C'est pas uniquement utiliser le siwak. La sunna ittiba', c'est également l'attitude, la noblesse de caractère dans toutes les situations de la vie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc mes chers frères et sœurs, nous sommes dans, subhanallah, dans une assemblée qui est bénie par notre Seigneur, et on le rappelle, parce que le rappel est profitable pour le croyant. Lorsque nous sommes dans ce genre d'assemblée, les malaïkas sont présents et les malaïkas vont rapporter à notre Seigneur les personnes qui étaient là, les messieurs, les dames. Et à la fin de l'assemblée, inshallah, nos péchés seront pardonnés. En plus du quota de ilm, du quota de connaissances qu'on va essayer, inshallah, de cumuler, de retenir. Et on retiendra à partir du moment où on est sincère. La sincérité, c'est quoi? C'est que tout ce que j'écoute, Mon objectif, c'est pas juste cumuler. Parce que si on veut cumuler, on va à la librairie, on achète 2 tonnes de livres, je mets dans ma bibliothèque, ça fait de moi un savant? Non. Est-ce que ça fait de moi un muttaqi? Abadan. Du tout. Ikhlas dans le ilm, c'est tout ce que j'écoute, j'ai l'intention de mettre en pratique. Et quand j'apprends, je demande du'a, je dis, oh Allah, donnez-moi tawfiq maintenant de mettre en pratique, que ma vie change. Qu'après le programme de Sira, qu'après le programme que mon atal haïfi, après le Salat al-Maghrib, qu'après un programme de jurisprudence, de fiqh, de hadith, de tafsir, que ma relation avec Allah Azza wa Jal s'améliore. Que je deviens un meilleur mu'min. Et c'était la façon d'agir des sahaba. Lorsqu'ils apprenaient 10 versets du Coran, ils n'apprenaient pas, ils ne passaient pas au, en guillemets, au sabbat suivant, au 11e verset, tant qu'ils n'avaient pas compris le sens, médité sur le message qu'Allah Rabbul Izzah délivre aux Ahlul Tawhid, aux musulmans, et mis en pratique de leur vie. Ça, c'était relation des sahaba avec Kalamullah et la relation des sahaba également avec les paroles de la prophète alayhi salatu wassalam. L'objectif, c'était toujours de mettre en pratique. Ainsi donc, j'aimerais que chaque personne présente, les hommes comme les dames, on essaie en quelques secondes de recadrer notre niya. On recadre. C'est-à-dire que je suis là, je suis dans une assemblée bénie et je suis conscient que mes péchés vont être pardonnés et c'est là une faveur de la part d'Allah. Mon cœur doit être rempli de joie parce qu'Allah me gratifie de ce cadeau à la fin de l'assemblée, maghfirat adh-dhunub, le pardon des péchés. Et je recadre mon intention que j'ai vraiment envie de changer ma vie, qu'Allah me donne la possibilité de comprendre ce que la personne va dire et que ses paroles touchent mon cœur et non pas rentrent d'un côté et ressortent de l'autre côté, non. Nous ne devenons pas des consommateurs de bayan, de conférences, mais que cela pénètre mon cœur et que ce cœur soit sincère et que je puisse les mettre en application dès maintenant dans ma vie de tous les jours. Qu'Allah nous accepte pour ce ikhlas an-niyya. Chers frères en islam, étudier la sirah, c'est une grande chance. Ça nous permet de retracer l'intégralité du wahi, l'intégralité de la révélation. Parce que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence avec اقرا بسم ربك الذي خلق et elle se termine avec les derniers versets اليوم اكملت لكم دينكم اذا جاء نصر الله والفتح. Parmi les derniers versets qui ont été révélés par Allah, la vie prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui commence à l'âge de 40 ans et qui se termine à l'âge de 63 ans, c'est durant toute cette vie, pendant ces 23 années, ben cela, en fait, c'est les 23 années de wahi, les 23 années de révélation. Donc, en étudiant la sirah, d'une certaine façon, nous arrivons à faire le lien entre les événements et les révélations. Parce qu'il y a des fois où même quand on lit le Coran en français, on va comprendre le sens, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ce qui est encore plus puissant, ce qui est encore plus bénéfique, c'est de faire le lien entre les siècles, entre les versets et ce qu'on appelle en arabe asbab al-nuzul, les circonstances de révélation. À quel moment ce verset a été révélé, dans quel but? Là vraiment, ça nous donne un aperçu, une compréhension encore plus forte, plus technique des versets et ça nous permet donc de mieux intégrer et de mieux mettre en pratique. Et cela ne peut se produire que par le biais de l'étude de la sirah. Donc là, alhamdoulilah, vous avez eu l'occasion en 1 mois et demi à peu près, 2 mois à peu près, d'étudier, mashallah, ceux qui ont été fidèles à l'intégralité des programmes ou par audio, d'apprendre un peu la sirah. Mais sachez que par la suite, il y a un autre travail à faire. Le but, je pense, était qu'on ait une première connexion avec la sirah. Mais quand un savant, un collègue, un alim fait un programme sur une thématique, assurément, il passe pas en revue chaque point. Parce qu'il faut énormément de temps. La sirat, si on voudrait voir vraiment les kutub écrits sur la sirat, c'est 6 ou 7 volumes de cette taille. D'accord? Donc ce n'est pas en 1 heure ou 1h30 qu'on peut parler d'un épisode de la vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça reste un moulakhas, ça reste un résumé. Maintenant à nous, après ce dernier programme, inshallah, de développer ce ta'alluq, cet amour, cet attachement pour la sirat et de reprendre depuis le début qui à le faire par le biais d'un livre. Il y a d'excellents livres qui ont été traduits en français ou alors en assistant à des durous, des programmes qui seraient éventuellement régulés sur la sirah pour apprendre encore mieux, pour connaître encore plus la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, ce que j'avais dit il y a 3 semaines, il est important d'étudier la sirah durant toute l'année. Ne pas attendre 12 al-bi'ul awwal, milad du nabi, là on va faire plein de choses, connaître. Ça n'apporte strictement rien.
Sahaba n'ont jamais donné le moindre importance aux 12 Rabi'ul Awwal, ni les tabi'in, ni personne. Ils n'ont jamais fait de programme. Voilà, Cheikh. Nous, c'est par rapport à nos faiblesses, par rapport à notre éloignement de la connaissance de la sirah, que certains jugent bon de parler un petit peu la sirah à ce moment, mais il faut pas qu'il y ait l'effet inverse. Qu'on se dit que voilà, je donne le droit à mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 12 Rabi'ul Awwal, j'étudie, j'écoute des récits, des chants, et ainsi de suite. Après le 13e Rabi'ul Awwal, c'est bon. Oh, khalas, ça a été fait. C'est comme Noël, c'est pas tous les jours Noël, c'est le 25. Fête des mères, c'est telle date. Saint-Valentin, c'est telle date. Le lendemain, c'est terminé. Na wallah. Si nous devions, subhanallah, exprimer notre reconnaissance envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, ça aurait été vraiment chaque seconde de notre vie. Donc, wallahi al-azim, très important. Qu'on construit. Vous savez, il y a des fois où on essaie d'analyser un petit peu qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui marche pas dans notre communauté? D'accord? C'est pas une critique. C'est une critique, mais je veux dire que c'est pas une critique hypocritement. C'est pas une critique. Comprenez que c'est une critique. On a des infrastructures, mashallah, à faire pâlir de jalousie nos frères et sœurs en métropole et ailleurs. Ils sont admiratifs, de ce que nous possédons en termes de masajid, en termes de madaris. Mais il y a vraiment quelque chose qui manque aux musulmans lambda. Je veux dire, le musulman moyen, basique. Je parle pas des savants. Aux musulmans qui pratique, qui vient à la mosquée. Je parle pas non plus de celui qui vient occasionnellement, Jum'a et Ramadan. Non, celui qui vient tout le temps, moi, vous, et ainsi de suite. Ce qui manque réellement pour nous permettre d'avoir une réelle relation avec le dîn, c'est le ilm, la connaissance religieuse. Ça, c'est essentiel. À partir du moment où le musulman ne réalise pas qu'il a besoin de se recycler spirituellement, par le biais du Coran et la Sunna, je vous assure qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que nous ne régressions dans la foi, dans notre concentration dans les prières, dans la qualité de nos actions. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit, je vous ai laissé deux choses. Et ça, on avait vu là, il y a trois semaines, quand le prophète sallam est retourné de Hajjat al-Wada' à Radir Khum, il avait insisté, il avait déjà dit ça de le Hajjat al-Wada', de le pèlerinage d'adieu. Il avait dit encore, avant d'entrer, de retourner à Madina, que rester accroché au Coran et à la Sunna, c'est la solution dans tous les moments de trouble. Dites-moi, est-ce que la Umma a déjà connu une époque plus délicate que maintenant? Jamais. Il y a eu, certes, des guerres, les Qaramita, il y a eu des moments difficile dans l'histoire de l'islam. Mais je veux dire qu'une fitna qui s'installe, qui se généralise comme un cancer, qui se généralise à un tel point que on ne peut pas faire un pas à l'extérieur sans être exposé au péché. L'adultère, l'absence de pudeur, l'alcool, l'intérêt, ainsi de suite. Nous sommes entourés de péchés. C'est-à-dire, nous avons atteint presque le summum en termes de fitna. En termes de petits signes de Qiyamah, si vous regardez, 98% des petits signes se sont accomplis. Il reste peut-être un ou deux qui ne se sont pas encore produits. Ce qui veut dire que nous sommes en train de vivre les jours les plus noirs de l'histoire de la Ummah en termes de spiritualité. Mais c'est à cette époque que nous avons grandement besoin de nous raccrocher, de nous rattacher à la parole d'Allah qui nous apportera la lumière et à la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je me suffis de mes a'mal, je viens à la mosquée, je jeûne le mois de Ramadan, même si durant le mois de Ramadan, mashallah, principalement ici, Moubarak, à Saint-Louis, vous faites énormément de programmes, alhamdulillah, mais si je me dis que c'est une période où il y a la spiritualité et le reste de l'année, je redeviens un commerçant, médecin, enseignant ou autre chose, je vous assure que certes, on va faire un bond énorme durant ce mois béni où on va apprendre le ilm, mais si on retourne à nos occupations et qu'on n'a plus aucun intérêt, on ne manifeste plus d'intérêt pour le ilm, je vous assure qu'on régresse. À notre époque, nous avons grandement besoin d'apprendre. Et dans chaque masjid, il y a suffisamment de savants, francophones, souvent des jeunes, alhamdulillah. Mon avis, mon humble avis, ça n'engage que moi, je n'ai pas l'expérience de certaines personnes. À mon humble avis, chaque personne a besoin de 3 programmes hebdomadaires. Vous allez dire que c'est beaucoup? Et alors? On en a grandement besoin. On a besoin d'une relation régulière, une fois par semaine au moins, un programme de sirah. On a besoin d'un programme de tafsir et on a besoin d'un programme de hadith. Avec ces 3 programmes, je pense que, alhamdoulilah, spirituellement, on continue à avancer régulièrement. Maintenant, en bonus, si on peut mettre un programme de aqidah, mashallah, ça fait 4, c'est magnifique. Mais 3, c'est amplement, on va dire, c'est raisonnable, c'est suffisant. C'est suffisant, mais il faut vraiment qu'on se fasse du souci. Si je vois que, depuis, si je demande à une personne, dernière fois que tu as pris un hadith, dis dernière fois, Ben, c'était comme il était sorti de Jamal, comme il avait 12 ans. Il a mis à 35 ans, depuis, il m'a pas appris un hadith, ni un nouveau sourate. C'est quand il était fait, comment on appelle ça, ben, halaqa, on apprend sourate. Depuis, j'ai plus rien appris. C'est grave. Tirer la sonnette d'alarme, ça veut dire que nous nous sommes éloignés de notre Seigneur. Et nous avons grandement besoin d'un retour vers Allah par le biais de l'Al-Qur'an et faites ce niya, Inch'Allah. Ça paraît peut-être impossible, ça nous prendra beaucoup trop de temps, mais qu'est-ce qu'on fait de nos soirées alors? Est-ce qu'on a besoin de temps de loisir? Est-ce que le dunya, c'est un endroit où on vient pour s'amuser? Est-ce que le but, c'est d'aller dans les salles de sport? Est-ce que le but, c'est d'aller jouer au football comme des enfants? Comment est-ce que des adultes vont jouer au football? Laissez ça pour les enfants. Alhamdulillah, on a grandi, on est marié, on a des enfants. On a besoin de s'orienter vers d'autres objectifs. Tarbiya, l'éducation des enfants. On a besoin de faire en sorte que dans le couple, il y ait le din. Mais si à chaque fois, on a un programme, tel joueur, je vais à la salle, tel joueur, je vais jouer au football, tel joueur, il y a la Ligue des Champions, tel joueur, telle chose. Mais il restera quoi? Il restera quoi pour notre din? Vous ne pensez pas qu'il y a du souci à se faire? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est inquiétant que malgré tout ce que nous avons, le nombre de Hufad al-Qur'an, le nombre de ulama, le nombre de mushaf, le nombre de Qur'an, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, les livres qui sont traduits en français, mais malgré ça, on a un peu de mal à pratiquer. C'est qu'il y a un problème de fond. Et le problème de fond vient de l'absence de connexion directe avec la parole d'Allah et la parole du Prophète sallam, c'est-à-dire les sources. Les sources de notre dîn. C'est pas le but, on est en train de s'éloigner un petit peu, mais dans Riyad al-Salihin également, il y a un magnifique hadith. Hadith connu de tout le monde. Quand Ibn Abbas, radiallahu anhuma, était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Il dit, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Oh petit, oh mon enfant. Quoi, ça me parle avec un enfant? Le prophète, il va propager l'islam au chef de tribu. Mais s'il voit un enfant, il va lui dire les paroles qui lui seront profitables. C'était ça sa mission. Je vais t'enseigner quelques paroles. Oh mon enfant, retiens ces paroles. Et le prophète va lui donner des conseils en rapport avec son cœur pour qu'il comprenne comment moi, Ibn Abbas, je m'appelle Abdullah, fils de Al-Abbas, j'ai 7 ans, 8 ans, là je n'ai pas précisé le hadith, mais il est encore petit, comment est-ce que dès maintenant, je construis une relation permanente sur des bases saines avec mon Seigneur? Et ces relations vont être construites sur les bases du tawhid, l'unicité d'Allah. Quand j'ai besoin de quelque chose, je m'oriente vers Allah. Quand j'ai besoin d'aide, je lève les mains, je demande à Allah. S'il y a des gens qui veulent me faire du tort, me faire du mal ou m'aider, je me dis que ce ne sont là que des makhlouqat, al-kullu biyadillah, tout est dans les mains d'Allah. J'intègre le fait également que ihfazillah yahfazuk, qu'en pratiquant le dîn d'Allah, en propageant le dîn d'Allah, en aidant intansurullah yansurukum, en aidant le dîn d'Allah, j'ai la protection de mon Seigneur qui va guider mes pas. Subhanallah. C'est les bases de la tarbiya islamia, de l'éducation islamique de l'enfant. C'est-à-dire un travail intérieur que le prophète a jugé bon de véhiculer, d'enseigner à cet enfant pour qu'il grandisse sur des bases solides. Nous avons besoin. Si nous ne faisons pas de soucis pour notre intérieur, si on se rend compte qu'on n'a aucune relation intime avec notre Seigneur, c'est qu'il y a du souci à se faire sur notre iman. Et quand le prophète alayhi salat wa salam nous annonce qu'à la fin des temps, lorsque Dajjal va venir, il y a des gens qui iront le voir par curiosité. N'allez pas le voir, n'allez pas. Parce que des gens vont aller le voir par curiosité. Arriver devant Dajjal, ils vont perdre la foi. Ils vont faire kufr billah. Ils vont le considérer comme Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la foi. Ils pensent qu'ils sont des bons croyants. Mais le fond est vide. Le iman ne représente strictement rien. C'est léger comme une plume. Vous soufflez le moindre épreuve, la moindre ibtila, la foi s'envole, s'éclate. Le prophète dit donc, ne prenez pas de risques. N'allez pas le voir. Ça c'est quand la foi n'a pas de base solide. Et je crains que nous soyons dans cette situation. Si Dajjal alayhi la'natullah venait à cet endroit, il commence à ressusciter les morts, il commence à faire ses miracles. Combien de personnes risquent de succomber à des choses que l'être humain n'a pas l'habitude de voir, qu'Allah nous protège. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler l'intérieur, une connexion avec Allah, et travailler cela par le biais du ilm, par le biais de la connaissance religieuse. Qu'Allah nous accepte. J'ai fait en islam, par le biais des programmes de Sirah, donc vous avez eu l'occasion d'étudier, comme on l'avait expliqué l'autre fois, il y a 3 semaines, le début de la révélation. L'époque où le prophète sallam propageait en secret. Quand le prophète alayhi salat wa salam est monté sur Safa pour expliquer aux gens le dîn, l'islam. Lorsque le prophète est parti à Taif et tous les événements en relation avec Taif, les périodes de persécution, l'année de la tristesse, comme on a dit, où il a perdu son épouse et son oncle. l'émigration vers Al-Madina Al-Nabawiyya, l'organisation de la société à Al-Madina Al-Nabawiyya, la bataille de Badr, la bataille de Uhud, de Bi'r Ma'ouna, de Banu Mustaliq, la bataille de Khandaq, le fossé, la bataille de Banu Quraïza, le pacte de Al-Hudaybiyya, la bataille de la conquête de Khaybar, le pèlerinage de Umratul Qada, de rattrapage, le Umra, de rattrapage, la bataille de Mu'ta, la conquête de Makkatul Mukarrama, la bataille de Hunayn, la bataille de la reprise de Ta'if, et enfin la bataille de Tabouk, ce qui nous ramène à 21 années d'histoire et de prophétie, ce qui nous ramène en l'an 9 de l'Hégire. Et après l'an 9 de l'Hégire, c'est ce qu'on avait vu il y a 3 semaines, notre prophète alayhi salatu wa salam, mashallah, sa mission est complétée. Et à partir de ce moment, Allah Rabbul Izza révèle le Hajj, donc c'était un peu avant, et Abu Bakr al-Siddiq, c'est celui qui a amené les musulmans pour faire le premier Hajj, et l'année d'ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam va amener la Ummah islamiyya, il va faire le i'lan que je vais faire le Hajj, ceux qui veulent faire le Hajj, qu'ils m'accompagnent, qu'ils viennent avec moi. Et nous sommes à une époque où la révélation est terminée. La mission du prophète alayhi salatu wa salam s'est parachevée avec succès et Allah Rabbul Izzah va donner la possibilité au prophète salam d'enseigner à la Ummah le dernier pilier de l'islam, le Hajj. Et notre prophète alayhi salatu wa salam aura également la possibilité de voir l'ensemble de la Ummah, plus de 100 000 personnes réunies lors du Wukuf à Arafat, et le prophète alayhi salatu wa salam peut admirer le résultat de ces 21 ou ces 22 années de prophétie où il voit ces gens qui lisent labbaik Allahumma labbaik à voix haute, ils lisent Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahi alhamd, alors qu'à une époque il n'y avait que lui, Khadija, Abu Bakr al-Siddiq et Ali ibn Abi Talib. C'est là la consécration pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu donc les différentes étapes du Hajj de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu comment le prophète donnait de l'importance au tablir al-risala, la propagation de la prophétie. Lors du pèlerinage d'Adieu, vous vous rappelez des messages que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délivrés à l'ensemble de la Ummah concernant les droits des musulmans, l'interdiction du zulm, de l'oppression, les droits des femmes, l'importance de rester accroché au Coran et à la Sunna, et beaucoup d'enseignements en rapport avec la spiritualité, en rapport avec les a'mal, les actions, en rapport avec le akhlaq, en rapport avec la dignité humaine que notre prophète alayhi salatu wa sallam nous a rappelé. Quelques jours après, notre prophète alayhi salatu wa sallam, lors du Eid, Al-Adha, il va faire un autre khutbah, un deuxième sermon, où il va rappeler encore à peu près les mêmes choses, et il va donner d'autres enseignements à l'ensemble de la Ummah qui est présent à ce moment. Et également, notre prophète alayhi salatu wa sallam, le jour du Eid, quelques jours après, il fera un troisième khutbah. Donc, il y a eu trois sermons que notre prophète alayhi salatu wa sallam a délivré durant ce Hajjatul Wada'a, et il disait aux sahaba, khudu anni manasikakum, apprenez comment faire le Hajj en m'observant. Observez-moi faire le Hajj et faites de la même façon parce que c'est là la façon prophétique pour la Ummah, pour cette Ummah. Hada. Également, son retour, notre prophète alayhi salatu wa salam va s'arrêter à Ghadir Khum, à cet endroit, il va faire un khutbah, où il va rappeler encore quelques principes et insister sur le kitab wa sunnah encore une fois et l'importance de Ahlul Bayt, de ses proches, donc de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De retour à Al-Madina Al-Munawwara, notre prophète alayhi salatu wa salam entend la nouvelle que les Romains sont à la frontière de, vous rappelez, de quel pays? De la Palestine. Les Romains. Et quand on parle des Romains, c'était l'armée la plus puissante à cette époque. Ils sont à la frontière de la Palestine. Ils font quelques déploiements de force pour voir la réaction des Arabes. Et notre prophète alayhi salatu wa salam réagit immédiatement comme un qaïd, comme un bon chef, comme un bon responsable de la Ummah. Notre prophète alayhi salatu wa salam désigne Usama ibn Zayd radiallahu anhu et l'envoie à la tête d'une grande armée qui va aller à la frontière donc de la Palestine pour montrer à ces Romains qu'il suffit que vous approchiez de la péninsule arabe pour que nous répondions présents. Et voilà donc notre réaction, afin donc c'était pour intimider les Romains qui commençaient à s'approcher donc de la péninsule arabe. Et on avait dit que Usama bin Zayd radiallahu anhu était alors âgé de 18 ans. Et certains sahaba avaient commencé à contester le imara, Le fait que ce soit Zayd, que Oussama bin Zayd, qui est le amir, parce qu'il était jeune, et dans son armée, il y avait Omar ibn al-Khattab, il y avait Uthman, il y avait des grands sahaba, il y avait des sahaba qui avaient participé à la bataille de Badr. Et lorsqu'on regarde la hiérarchie des sahaba, les plus grands des sahaba, ce sont les Ahl-e Badr. Ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui étaient présents depuis le début. Et c'est des gens de ce niveau sont commandés, entre guillemets, par un amir qui n'a que 18 ans. Mais le prophète, alayhi salatu wasalam, dit que cet homme a des qualités qui sont aimées par Allah et son prophète, tout comme son père. Zayd, radiallahu anhu, avait des qualités qui étaient aimées par Allah et son prophète. Et lorsque le prophète donne une directive, les sahaba respectent. Et ils vont donc accepter la décision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'armée s'apprête à quitter Al-Madina, Al-Munawwara. Ils sont, si je ne me trompe pas, à un jour ou deux jours de marche de Al-Madina, mais leur parvient la nouvelle que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est très malade et que sa maladie est en train de s'installer, en train de s'empirer, et ils comprennent que notre prophète alayhi salatu wa sallam est en train de vivre ses derniers jours. Et donc Usama bin Zayd radiallahu anhu prend la décision de retourner à Al-Madina Al-Munawwara parce qu'il ne concevait pas s'éloigner de la terre bénie et de ne plus revoir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour reprendre, on va dire, le fil du programme, on s'était arrêté la dernière fois, donc on a fait une petite introduction. Ibn Kathir, rahimahullah, dans Al-Bidayah wa Nihayah, ce grand livre d'histoire de l'islam, il relate les ahdath, les événements de l'an 11 de l'Hijra. Donc là, on est en quelle année? On est en l'an 11 de la Hijra à Al-Madina Al-Nabawiyya. Ibn Kathir, rahimahullah, relate que le prophète, alayhi salatu wassalam, est retourné à Al-Madina. Il est de retour du Hajj, ainsi que les caravanes, ainsi que tous les sahaba. Ils prennent le temps qu'il faut pour retrouver leur repère, pour s'installer, pour reprendre, on va dire, une activité normale dans la ville de Al-Madina Al-Munawwara après l'accomplissement du Hajj. Mais à partir de ce moment, Allah Azza wa Jal va envoyer des signes. Et le prophète alayhi salatu wassalam va comprendre les signes qu'Allah lui transmet. Ces versets ont pour but de faire comprendre au prophète alayhi salatu wassalam, et lui, uniquement lui, que c'est bientôt le moment de retourner auprès d'Allah. Et pourquoi est-ce que c'est le moment de retourner auprès d'Allah? Parce que sa mission maintenant c'est parachever. Lorsqu'il a expliqué les bases de l'islam lors du Hajjatul Wada', le verset « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum » a été révélé. C'était déjà là une preuve que « Khalas » le dîn est complet, c'est terminé, la mission est accomplie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je ne me trompe pas, c'était ensuite le khutba de Eid al-Adha, de Bakrid comme on dit, donc le dixième de l'Hijja, si je ne me trompe pas, c'était à ce moment-là que, juste après le khutba, idha ja'a nasrullahi wal fath, a été révélé des versets de clôture qui montrent que la wahi, la révélation, mais également le nubuwa, la prophétie prend maintenant fin et que l'heure du départ est arrivée. Et le prophète alayhi salatu wa salam à ce moment est le seul qui a compris le message de la part d'Allah Azza wa Jal. Quelques sahaba vont avoir une petite compréhension, mais très peu. Il y aura Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu qui lui comprend dès le début. Parce que c'était Abu Bakr as-Siddiq. Parce que c'était celui qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le premier jour. Celui qui a tout donné, qui a tout sacrifié pour Allah et son prophète. Donc Allah avait mis un nour, une lumière dans son cœur, un tafaqquh, une compréhension du dîn, que lorsque les versets étaient révélés, Abu Bakr était toujours le premier à comprendre. Et il comprenait, il entrevoyait ce que les autres ne comprenaient pas. Et l'autre personne qui à un moment donné a compris, c'était Omar ibn al-Khattab. Ça peut paraître paradoxal. Parce que tout le monde connaît à peu près l'histoire, Omar, comment il s'est énervé quand on a dit que le prophète est décédé. Mais il avait compris. Mais il avait compris, il a eu une lueur de compréhension à travers un verset. Je sais pas, on va voir si c'était un verset ou un hadith. Mais lorsque cette nouvelle est venue que le prophète est décédé, il a perdu sa lucidité. Il comprenait plus. Du coup, ce qu'il avait eu comme ilm, il l'a complètement oublié. Il a laissé place à l'émotion. Différence de réaction avec celle de Abu Bakr al-Siddiq, qui est d'une nature beaucoup plus posée. On a besoin de tout dans une umma. On a besoin de personnes costauds qui, quand ils parlent, les gens ont peur, les gens sont effrayés. Que même Shaitan traverse la rue quand il voit Umar ibn al-Khattab, tellement c'était quelqu'un d'imposant, que les ennemis, lorsqu'ils entendent parler de Umar, ils détalent comme des lapins, ils ont peur. Mais on a besoin également de personnes maigres, faibles, avec une voix très faible, que lorsqu'il lit le Coran, il peut quasiment pas lire tellement, il se met à pleurer, avec un amour pour Allah, un amour pour son prophète, Allahu Akbar, débordant. La Oumma a besoin de toutes ces personnes. Et Allah a donné des sifat à chaque sahaba. Uthman ibn Affan, c'était celui qui a porté le soutien financier. Ali ibn Abi Talib, c'était la jeunesse, c'était le sang, c'était Ahlul Bayt. Chaque sahaba avait un apport fondamental pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui a été le mieux entouré de l'histoire des prophéties. C'est le prophète qui n'a jamais été trahi par un seul de ses disciples. Même Isa alayhi salam avait été trahi par un de ses apôtres, même Moussa alayhi salam. Certains Israélites, à un moment donné, remettaient en question, ils ne comprenaient pas, ils voulaient des preuves, ils voulaient voir Allah, ils ont demandé des choses que les sahaba n'ont jamais demandé. Ça nous prouve que les sahaba, les compagnons, c'était les meilleurs des hommes. Le prophète a été entouré des personnes qui avaient le plus de qualité. Et parmi ces personnes qui avaient compris, un jeune homme, un enfant, celui qui était sur la monture, le prophète Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète est décédé, il venait d'atteindre l'âge de puberté, on va dire 13, 14 ou 15 ans, selon les muhaddithines, 15 ans, lorsque le prophète est décédé. Mais avant le décès du prophète sallam, il avait reçu un doua du prophète alayhi salatu wa salam. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu 'ilma at-ta'wil. Ou Allah, accorde-lui le tafaqquh, la compréhension de la religion, wa 'allimhu 'ilma at-ta'wil, et enseigne-lui, ya Allah, le sens de ta'wil. Ta'wil, c'est synonyme de tafsir. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, est devenu Habl al-Umma, la corde de cette Umma, celui qui avait le plus de connaissances sur les ma'anas, le sens de Kalamullah, des paroles du Prophète. Un an, astaghfirullah, on ne peut pas dire un enfant, un jeune homme, 14, 15 ans, il est déjà le plus grand savant de tafsir. C'était là les qualités qu'Allah Rabbul Izza avait données aux compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, notre prophète alayhi salatu wa salam reçoit ces signes, hein, ces annonces de la part de son Seigneur, de la part d'Allah Azza wa Jal. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il décrit également l'événement de l'an 11 comme étant l'événement le plus terrible que la Oumma va connaître. L'an 11 est marqué par l'événement le plus terrible, c'est le départ, le décès de notre prophète alayhi salatu wa salam. Ibn Kathir dit, ce n'est pas la disparition du prophète. Ce n'est pas la disparition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est la concrétisation du verset de Wadduha où Allah Rabbul Izzah dit « Wa l'akhiratu khayrun laka minal oula wa la sawfa yu'atika rabbuka fatarda » où Allah Rabbul Izzah annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'au-delà, en ce sens, est meilleur pour lui que la vie de ce monde et que ce qu'Allah va lui donner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera entièrement satisfait des ni'amas, des bienfaits qu'Allah Rabbul Izzah va lui accorder dans l'autre monde. Ce sera là le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la concrétisation de la promesse d'Allah Azza wa Jal à travers ce verset et à travers d'autres versets. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, il met en avant le caractère dramatique du décès du prophète alayhi salatu wa salam en expliquant, en donnant un aperçu de l'amour que les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in avaient pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur du livre, hein, qu'on utilise comme référence, il va citer 5 ou 6 événements qui montrent comment les sahaba étaient prêts à donner leur vie entière, tout ce qu'il possède pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une parole magnifique. لَقَدْ بَلَغَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِنَبِيِّهِمْ sallallahu alayhi wa sallam مَبْلَغًا عَظِيمًا بِحَيْثُ كَانُوا يَتَمَنَّوْنَ فَقْدَ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَلَا On continue en français. L'amour que les sahaba avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait atteint un tel niveau, un tel degré qu'ils auraient préféré donner leur corps, leurs biens, sacrifier leurs enfants, leur famille, l'intégralité de ce qu'ils possédaient comme bienfait, à condition que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas de le taklif par une épine qui le pique, que le prophète ne connaisse strictement aucune difficulté. Je préfère payer tout ce que j'ai comme bienfait, mais savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bien et que rien ne lui porte préjudice. C'est exactement là l'état d'esprit des sahaba. Qatada ibn Nu'man radiallahu anhu, le hadith est un peu long, on le résume, il explique comment est-ce qu'il était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Vous savez que la bataille de Uhud, c'est une des batailles les plus dures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à un tel point que certains mécréants ont profité de l'occasion pour faire croire aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était gravement blessé. Vraiment, des blessures comme il n'a pas eu dans d'autres situations, si ce n'est lors de la prêche à Banu Thaqif, à Taif. Alors donc, Qatad ibn Nu'man dit que kullama ma la sahm, il restait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec pour objectif que si une flèche arrive, il faut que mon visage doit être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que moi je sois atteint et que le visage mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit protégé. Ça c'était, il y a pas d'exagération. C'est exactement comme ça que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, réagissaient. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du hijra, lors de l'émigration, lorsqu'ils avaient fait le chemin ensemble, Abu Bakr as-Siddiq marchait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un instant près, il était derrière. Un instant près, à droite, à gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Abu Bakr as-Siddiq, pourquoi est-ce que tu changes de démarche, tu changes de position aussi souvent? Abu Bakr as-Siddiq, oh prophète d'Allah, il y a des fois où je me dis que, imagine que l'ennemi nous surprend par derrière et qu'il envoie une flèche. Il faut que je sois derrière toi pour que mon corps te protège. Et puis je me dis, mais s'ils viennent devant, ils nous surprennent dans une embuscade, il faut que je sois devant au moins afin que ce soit moi qui encaisse la flèche. S'ils viennent à droite ou à gauche, et ainsi de suite. C'était là l'état d'esprit d'Abu Bakr Siddiq, sacrifier son corps pour protéger un Nabi Sansom. Parce qu'il avait dit que, au prophète d'Allah, le hadith est un peu long, il dit au prophète d'Allah, si moi je meurs, ce n'est que Abu Bakr Siddiq qui meurt. Mais si c'est toi, Nabiullah, qui meurt, c'est la propagation de l'islam qui va s'arrêter. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'était la prise de conscience des sahabas. Non, pas uniquement la personne du Prophète sallam, mais également l'importance de sa risala, l'importance de sa mission. Autre récit qui nous montre l'attachement des sahabas pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est toujours dans la bataille de Uhud. On est avec une dame, sahabia, de la tribu des Banu Dinar. Hadith très connu qu'on avait peut-être abordé un petit peu dans la conclusion il y a 3 semaines. Cette femme, lors de la bataille d'Uhud, elle va perdre son mari, son frère et son père. Ils seront tous shahid, ils vont mourir dans le chemin d'Allah. Sahaba, ils vont faire le ta'ziya, ils vont présenter leur condoléances à cette femme. Ils vont l'encourager, qu'Allah t'accorde meilleur que ça, qu'Allah Rabbul Izzah te rétribue parce que tu as perdu 3 piliers de ta famille lors de cette bataille. Elle n'a rien à faire des encouragements des sahaba. Ça ne l'intéresse pas. Elle pose une seule question. Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Où est le prophète? Qu'est-il arrivé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qalu khayra. Dire, je te rassure, il va très bien. Huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Il est par la grâce d'Allah, comme tu aimes le voir en temps normal, il est sain et sauf. Il est en vie. Il n'a aucun problème. Qalat. Et elle dit, elle échange, elle argumente. Elle vient de perdre son papa, son frère et son mari. Elle est veuve. Elle ne pense pas à tout ça. Elle est en train d'argumenter. Quelle preuve avez-vous qu'il est en bonne santé? Amenez-moi voir Mohammed, mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si je le vois en bonne santé, là mon cœur sera rassuré. Et là, les sahaba l'ont amené voir le prophète. Elle a vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit une parole. Ajib. Hatta idha ra'athu, lorsqu'elle l'a vu, elle a dit, ya Rasulallah, kullu musibatin ba'daka jalal. N'importe quelle musiba c'est un malheur, une calamité. N'importe quelle calamité qui peut me toucher ou toucher n'importe quelle autre personne, en dehors des épreuves qui te touchent, ça n'a aucune importance, c'est insignifiant. Que je perde mon mari, mon papa ou mon fils, ça n'a aucune importance. Aham Shay, le plus important au prophète d'Allah, c'est que toi, tu sois bien, tu sois en bonne santé. Ainsi était l'amour. On pourrait dire que là, on a parlé d'Abu Bakr tout à l'heure, mais l'ensemble des sahaba, c'est pas uniquement Abu Bakr, Ibn Abbas et Umar, non, l'ensemble des sahaba avaient cet amour illimité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre récit de Al-Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan, une fois raconté un récit assez connu qui date des premiers jours de Al-Madinah. Certainement Al-Hassan n'était pas encore né à cette époque, Allahu a'lam. Il raconte que, vous savez qu'au début, lorsque le prophète a construit la Masjid Nabawi, il n'y avait pas de mimbar. Donc, il se reposait sur un tronc, on va dire un palmier. Et à un moment donné, après, ils ont construit pour lui un mimbar, ainsi de suite. Et on connaît l'histoire que ce palmier s'est mis à pleurer. Le prophète l'a serré contre lui et le bruit s'est arrêté. Et le prophète a dit que si je n'avais pas fait, il y aurait eu cette lamentation juste pour Qiyam. Hadith authentique. Et Al-Hassan, كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال. Lorsqu'Al-Hassan, radiallahu anhuma, il relatait ce hadith, il se mettait à pleurer, il dit que « Hadihi khashba », ça c'est un morceau de bois qui font, qui font en larmes par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilay. Nous, en tant que musulmans, nous devons avoir encore plus d'amour et nos cœurs doivent être encore plus tristes de ne plus avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de nous. Autre exemple, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. On connaît l'histoire de Bilal. Son attachement pour le dîn commence depuis Makkah ou Madina. Depuis Makkah al-Mukarrama, depuis les premiers jours où il a vu la vérité chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé son tawhid, l'attestation de foi. Il a été persécuté. Et on connaît l'histoire de Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. Et Bilal est resté ferme malgré les tortures. Il est resté ferme dans la foi. Lorsqu'il voit son Nabi, lorsqu'il voit son prophète quitter ce dunya, imaginez maintenant, Allahu Akbar, cet homme qu'il a enlevé de sa condition d'esclave. Vous savez, les Arabes étaient impitoyables lorsque quelqu'un était de peau noire ou quelqu'un n'était pas de sang arabe ou de haute lignée. On le considérait comme une personne sans intérêt. On n'avait aucune considération pour lui dans la société. Notre prophète a amené une religion juste basé sur l'adoration d'Allah, le tawhid, les actes d'adoration, les ibadah, l'akhlaq, mais également la notion d'égalité entre les races, où personne n'est supérieur à son prochain si ce n'est par la taqwa. Et c'est grâce à ce message que Bilal était délivré, entre autres, de l'obscurité, le fait qu'il n'était pas de le tawhid, et il a été délivré également de l'esclavage. Donc imaginez son amour et sa reconnaissance pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que وَرُوِيَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ que Bilal continuait à donner le adhan après le décès du prophète alayhi salat wa salam, mais avant l'enterrement. Le prophète est décédé un lundi et il était enterré selon la majorité, l'opinion des savants, il était enterré un mardi. D'accord? Et Bilal continuait à donner le adhan après le décès du prophète sallallahu alayhi wa salam. Et lorsque dans le adhan il disait ashhadu anna Muhammad ar-rasulullah, irtajja al-masjid bil-buka'i wan-nahib, lorsqu'il prononçait ashhadu anna Muhammad ar-rasulullah, l'ensemble de la masjid nabawi se mettait à pleurer à haute voix parce qu'il venait de perdre ça. C'était encore récent, ça faisait même pas 24 heures qu'ils avaient perdu l'homme qui a tout donné pour eux, l'homme qui leur a montré le droit chemin. La masjid tout entière se mettait à pleurer lorsque Bilal donc lisait ashhadu anna Muhammad ar-rasulullah de l'adhan. Et lorsque le prophète a été enterré, falamma dufin taraka Bilal al-adhan, après l'enterrement du prophète sallam, Bilal ne pouvait plus donner l'adhan. Il arrêtait complètement de donner le adhan, tellement son cœur était attristé. Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète alayhi salat wa salam, est rapportée dans certaines sources que après le décès du prophète alayhi salat wa salam, on n'a plus jamais vu Fatima radiyallahu anha rire. Jusqu'à sa mort, elle n'a plus ri, elle n'a plus souri, même pas une fois, tellement son cœur était rempli de tristesse, pas parce que c'est son père qui est décédé, parce que c'est le nabi de la umma, le prophète de cette umma qui a quitté ce dunya. Ainsi était la tristesse des sahaba au départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au-delà de l'amour pour la personne du prophète alayhi salatu wa sallam, les sahaba avaient une clairvoyance. Après le décès du prophète alayhi salatu wa sallam, et après, ça on verra dans un instant, après le khutba de Abu Bakr al-Siddiq qui va ramener les gens via le droit chemin, les sahaba voient Umm Ayman radiallahu anha assise en train de pleurer à chaudes larmes. Ils vont voir Umm Ayman, dit, ma yubkiki ya Umm Ayman, qu'est-ce qui te fait pleurer? Sache que Allah Azza wa Jal a honoré notre prophète. Wa adkhalahu jannata, lui a accordé le jannah, lui a accordé les plus hauts degrés. Et Allah lui a soulagé des difficultés de ce dunya. Il ne faut pas continuer à pleurer. Faqalat, elle a dit, innama abki ala khabari sama, kana ya'tina. Je pleure. Pas uniquement pour le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pleure parce que à partir de ce moment, Allah Rabbul Izza ne révélera plus rien à cette umma et à la race humaine. Le wahi est terminé. Le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam marque également la fin de la révélation, la fin des wahi de la part d'Allah Azza wa Jal à l'attention de la umma. Et c'est ça qui me chagrine également. Donc le sahaba, c'était l'amour pour la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également par rapport au fait que le prophète, c'était le lien entre eux et Allah Azza wa Jal. Maintenant, dans le Coran, il y a certaines quantités de surah, de ayah, de versets qui prouvent, hein, qui annoncent d'une certaine façon, soit de façon implicite ou explicite, le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces versets les plus connus, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Ce verset a été révélé lors de la bataille d'Uhud. On avait dit ça tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été blessé et certains polythéistes, certains mouchriquins avaient profité de l'occasion pour essayer de déstabiliser l'armée des musulmans en annonçant que le Mohammed est mort, on l'a tué. Et certains musulmans étaient déstabilisés. Imaginez, s'ils perdent leur prophète, c'est pas uniquement des gens qui perdent le chef, non. Ils deviennent orphelins parce que le prophète comptait plus pour eux que leur papa, leur maman. Ils deviennent désarmés complètement. Et là, Allah Rabbul Izzah a révélé le verset qui prouve que le Mohammed n'est qu'un prophète. Avant lui, il y a eu d'autres prophètes. Si un jour il meurt, ou si un jour il est tué, en ce sens, est-ce que vous allez revenir sur vos pas? Est-ce que vous allez reconsidérer votre position? Donc c'était là un rappel pour l'ensemble des sahaba, un rappel que viendra un jour où Nabiullah va quitter ce dunya, mais même quand il quittera ce dunya, c'est l'ordre, la décision d'Allah, il ne faut surtout pas reculer dans la foi, il faut rester dans le droit chemin. Donc c'était un des premiers versets qui rappelait la Ummah du décès probable, un jour du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez dire que oui, mais au moment où le prophète est décédé, les sahaba ne connaissaient pas ce verset, ils le connaissaient tous. Mais lorsque le prophète est décédé, l'émotion a pris le dessus. Personne ne s'est rappelé de ce verset. Le seul qui s'est rappelé, c'était qui? On a dit Abu Bakr al-Siddiq. Les sahaba dit que lorsqu'on a entendu Abu Bakr al-Siddiq lire ce verset, c'est comme si on ne l'avait jamais entendu. Tellement on était choqués, on ne pouvait pas imaginer une seule seconde que cette personne qui était omniprésente dans notre vie, dans notre spiritualité, puisse un jour nous quitter, puisse un jour disparaître. Autre verset qui stipule le décès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah Rabbul Izzah dit de la sourate Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Il y a pas mal de versets que tu es mortel et ils sont tous mortels et qu'un jour vous serez retourné auprès d'Allah, le jour de Qiyama, ou en ce sens où Allah va vous juger. Déjà, c'est une indication où Allah dit « Innaka mayyitun ». Tu es mortel, que les sahaba et les musulmans comprennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas vivre éternellement, qu'un jour viendra où il va retourner auprès d'Allah azza wa jal. Et parmi les versets qu'Abu Bakr al-Siddiq a utilisé pour faire comprendre aux musulmans que le prophète est décédé, il y a eu ce verset. Les savants disent, petite parenthèse, vous voyez le ilm d'Abu Bakr al-Siddiq. Il comprenait les versets et il savait les appliquer dans les moments où il fallait les mettre en application. Alors que quand nous on est dépassé par les événements ou par l'émotion, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut lire. Il y a des fois on ne sait même plus quel doigt il faut lire dans telle situation. Mais Abu Bakr, il connaissait les versets comme les autres sahaba. Mais lui, il avait ce recul que à ce moment précis, il a dit, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait mourir, c'est annoncé par Allah dans tel verset, parce que et ça nous montre à quel point les sahaba n'acceptaient pas son décès. Ils ne pouvaient pas comprendre. Selon certains sahaba, le prophète est parti un instant, il va revenir. C'est ajib, ça, hein? C'est presque comme des enfants qui n'acceptent pas une nouvelle. Ils disent non, c'est pas vrai, tu mens, c'est pas possible. C'était des adultes, c'était des gens qui ont combattu à Badr, à Uhud, à Khandaq, à Hunayn. C'était des hommes, c'était les gens les plus courageux. Mais quand on disait que le prophète est mort, non, c'est pas vrai, c'est impossible. Et Abu Bakr a dû ramener les versets qui annonçaient le décès du prophète, 5 ou 6 versets, pour que peu à peu, il commence à réaliser. Vous voyez le décalage qu'il y avait, comment les sahaba ne pouvaient même pas intégrer le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec ça, il y a d'autres versets. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de tous les rappeler. Le verset de Sourate Al-Anbiya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Qu'avant toi, personne n'a vécu éternellement. Si toi-même, au prophète d'Allah, tu meurs, en ce sens, hein, penses-tu qu'il y a d'autres qui vont rester éternels? C'était une indication également que le prophète également était un mortel. Après, il y a le verset que le nafsi dhaiqatul maut qui renforce encore plus cette idée que le prophète allait un jour décéder, allait un jour quitter ce dunya. Et ce verset-là également de la sourate Al-Anbiya, Abu Bakr al-Siddiq a mis en avant pour convaincre les musulmans que le prophète était réellement décédé. Le verset de Wadduha qu'on a cité tout à l'heure également, le verset Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Lorsque ce verset a été révélé par Allah Azza wa Jal, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est mis à pleurer. Sahaba dit, ma yubkik, ya Umar ibn al-Khattab, pourquoi tu pleures, oh Umar? Dit, innahu laysa ba'da al-kamal illa al-nuqsan. Lorsqu'Allah annonce que maintenant la religion, al-yawma akmaltu, c'est parachevé, c'est-à-dire, parachevé, le terme le plus complet, c'est justement, la religion est complète. est devenue parfaite, a atteint son summum. Il a dit, après chaque summum, il y a une chute et une dégradation. Il avait compris que à partir du moment où ce dîn a atteint le summum, ça veut dire que maintenant, la dégradation, ce sera le départ, la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'avait compris par le biais de ce verset, mais comme on l'a dit tout à l'heure, au moment clé, il n'arrivait pas à se rappeler du verset, à l'appliquer dans la situation précise. Également, il a déjà an-nasrullahi wal fath, Ibn Umar, radiyallahu anhuma, rapporte que ce verset a été révélé, pendant les ayamut tashriq, donc pendant le pèlerinage d'adieu, lorsque le prophète a terminé son khutbah, Allah azza wa jal donc a révélé ce verset, et on avait demandé à Ibn Abbas et aux sahaba en général, d'abord, qu'est-ce que vous comprenez à travers lorsque vient l'aide d'Allah et al-fath, l'ouverture, et que tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah à fouadja, en quantité, fais les éloges de ton Seigneur et demande pardon, certes, innahu kana tawwaba, certes, Allah est pardonneur. Le sahaba avait dit que dans ce verset, on comprend que Allah nous demande de faire preuve de reconnaissance, shukr, de faire les tasbihats, de demander istighfar lorsqu'il y a son aide. Mais c'était le zahir, c'était le sens apparent des versets. Il n'y a rien d'autre, on va dire, à retenir, à comprendre directement des versets. Ensuite, ils ont demandé, « Wama za taqoul ya Ibn al-Abbas ?»« Toi, Ibn al-Abbas, qu'est-ce que tu dis à propos de ce verset ?» Il a dit clairement, « Huwa ajalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nu'ya ilayh. » C'est une annonce claire de la part d'Allah que le prophète alayhi salatu wa sallam vit ses derniers jours et que bientôt il va retourner vers Allah. Et Sahaba dit, et Umar, c'est Umar qui posait la question. Faqal Umar, la a'lamu minha, le hadith est un peu long. Et ils ont reconnu là la suprématie de Ibn Abbas concernant le tafsir, concernant la compréhension des versets. Donc, à travers ces quelques versets, on a voulu mettre en avant le fait que le départ du prophète alayhi salat wa salam avait été annoncé à maintes reprises dans le Coran afin que les sahaba réalisent qu'un jour cet homme va les quitter. Mais malgré ce départ, il faut rester ferme dans le sirat al-mustaqim, ferme dans la foi. Il y a des textes, il y a des hadiths également qui mettent en avant le décès du prophète alayhi salat wa salam, qui l'annonce. Parmi ces hadiths, le prophète alayhi salat wa salam, une fois, a appelé sa fille, Fatima, radiallahu anha, alors que le prophète était auprès de ses épouses, et il y avait entre autres Aïcha. Fatima s'est approchée donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, et ça c'est beau, si on devait s'étaler sur chaque parole prophétique, ça aurait été ajib. Marhaban bibnati. فَأَقْعَدَهَا يَمِينَهَ أَوْ شِمَالَهَ. Le prophète, lorsqu'il a vu Fatima entrer, il a dit, sois le bienvenu, ô ma chère fille. Viens t'asseoir auprès de moi. Il l'a mis assise, soit à sa droite, soit à sa gauche. Les savants disent, voyez l'amour que le prophète avait pour sa fille. Comment le papa doit aimer ses enfants? Ces gestes d'amour du quotidien, c'était pas un événement extraordinaire qui se passait. Fatima rentre, peut-être comme tous les jours, il vient rendre visite à son père. Mais c'était un amour permanent que le prophète alayhi salatu wa salam avait pour ses enfants, et c'est là également un modèle pour chaque croyant. Il a donc, Fatima s'est assise auprès du prophète sallallahu alayhi wa salam, et le prophète a dit une parole, on pourrait dire, dans l'oreille de Fatima radiallahu anha. Faqalat laha. Il a dit une parole qui a attristé Fatima et une autre parole qui l'a rendue, on va dire, joyeuse. Et après cet entretien, on va dire un peu secret, Aïcha radiallahu anha a été voir Fatima, a dit, qu'est-ce que le prophète t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit en secret que nous n'avons pas le droit d'entendre? Fatima dit, c'est un amana, c'est un secret, je n'ai donc pas le droit de vous le révéler. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha dit que, oh Fatima, maintenant que notre prophète est décédé, dis-moi, quel était donc ce secret? Fatima dit, amma al-an, fana, maintenant oui, oh Aïcha, je peux te le dire. Dit, la première nouvelle qui... Et la première nouvelle que le prophète m'a annoncée, c'est que, oh Fatima, tu sais, tous les ans, Jibril alayhi salam vient me rendre visite durant le mois de Ramadan et il me fait, on pourrait dire, une révision de l'intégralité du Coran, marra wahida, une fois. Et cette année, il est venu deux fois. Wala ara dhalika illa liqtirabi ajali. Il dit, je pense que le fait que l'ange Jibril vienne me voir deux fois durant ce Ramadan qui vient de s'écouler pour me faire réciter l'intégralité du wahi, c'est que le wahi est bientôt terminé et que je vais bientôt mourir. Oh Fatima, fattaqillahi, fattaqillaha wasbiri. Développe ta crainte d'Allah, fais preuve de taqwa et sois patiente. Fabakaitu. Et là, je me suis mise à pleurer parce que mon père vient de m'annoncer qu'il est en train de vivre ses derniers jours. C'était là les signes qu'Allah avait envoyés. Et la nouvelle qui a rempli son cœur de joie, c'est lorsque le prophète m'a dit, Amatardina, est-ce que tu serais contente d'être Sayyidatu Nisa il Mu'minin, ou Sayyidatu Nisa i Hadihi l'Umma? Est-ce que tu es contente si Allah t'accorde le rang de la reine des femmes de cette Ummah? Fadahikat. Et là, elle s'est mis à rire, elle était contente. Et donc là, elle a annoncé à Aïcha, radiallahu anha, qu'est-ce que le prophète lui avait annoncé. Donc, notre prophète, après le mois de Ramadan, a compris que c'était les derniers moments qu'il était en train de vivre. Il y a une autre version également, d'autres versions de d'autres rapportées par d'autres livres, d'autres muhaddithines, mais on va dire que ça va à peu près dans le même sens. Autre hadith qui annonçait le décès du prophète alayhi salatu wassalam, c'est justement lorsque le prophète était en train de lapider les stèles, il disait, لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. Lorsqu'il lapidait les stèles du sahaba, regardez aux musulmans, regardez comment est-ce que je procède dans chaque action du hajj, parce qu'il est possible que à l'avenir, je ne sois plus parmi vous et que je ne puisse plus accomplir le hajj l'année prochaine. Donc c'était là l'annonce qu'il vivait son dernier hajj. Autre, il y a d'autres versions qui vont dans le même sens. On passe au hadith suivant. Hadith Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a fait une fois une khutba. Il s'est adressé aux sahaba. Il dit que, oh sahaba, sachez que inna Allah khayyara abdan bayna dunya wa bayna ma indallah, fakhtara dhalika al-abdu ma indallah. Sachez qu'Allah a proposé à un de ses serviteurs soit les biens de ce monde et tout ce qu'il y a de ce dunya, ou alors de retourner auprès d'Allah. Et ce serviteur a préféré l'autre choix, c'est le retour auprès d'Allah et ne rien avoir dans ce dunya. Et Abu Bakr s'est mis à pleurer en public tout de suite, immédiatement. Fabakar Abu Bakr. Fa'ajibna li bukaihi. On comprenait pas, dit le prophète, nous annonce quelque chose de général et Abu Bakr se met à pleurer et on a posé la question. Abu Bakr dit fa kana Rasulullah sallam huwa al-mukhayyar. Wakan Abu Bakr a'lamuna. Abu Bakr a expliqué que ce serviteur dont le prophète fait allusion, c'est lui. Il a eu la proposition de la part d'Allah. Soit tu restes encore et tu bénéficies de tout ce qu'il y a comme bienfait, ou alors c'est maintenant que tu retournes auprès d'Allah. Et le prophète a préféré retourner auprès d'Allah. Et là, le sahaba dit qu'à partir de ce moment, on a compris définitivement que Abu Bakr kana a'lamuna. C'était le plus grand alim. C'était le plus grand savant parmi nous. Autre hadith, et ça on avait expliqué la dernière fois, hadith qui est poignant, hadith de Mu'adh ibn Jabal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide d'envoyer Mu'adh, qui était un grand alim, quelqu'un rempli de sagesse. Il l'envoie au Yémen. Et les gens du Yémen avaient la religion, ils avaient le Injil avec eux, la Bible, ils connaissaient les révélations, c'était des Ahli Kitab. Donc le dialogue avec eux était beaucoup plus technique. Et Mu'adh avait le ilm, il avait également le tact, il savait le jidal. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il accompagne Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu aux frontières de Al-Madina, il est maintenant sur sa monture, le prophète sallallahu alayhi wassalam, et là aussi on voit, je sais pas si c'est de ce hadith, un hadith que le prophète, il avait installé donc Mu'adh sur le, je sais pas si c'était un cheval ou un chameau, sur la monture, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait les rênes de la monture, il marchait à pied. Petite parenthèse, les savants disent, voyez le tawadhu, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ce genre de personne qui va être le plus haut, que quand je marche, il faut que tout le monde m'accompagne, il faut que les gens soient à mon service. Là, wallah, c'était un homme d'une grande simplicité. Il a un sahaba, il le met plus haut que lui, et lui, Nabiullah, il marche à pied. Et c'est lui qui amène la monture de Mu'adh ibn Jabal. Aux frontières de Madina, il dit, ya Mu'adh. Il va dire quelque chose de poignant. Mu'adh, dans sa tête, il est prêt à accomplir sa mission. Parce qu'avant, le prophète lui avait expliquer un peu le contexte de l'Ahlul Yémen, des gens du livre, ils connaissent les révélations, ils savent également telle chose, donc il faudra argumenter de telle façon, mais en avant tel verset. Il avait tout compris, Mu'adh al-Jabal, et c'était un da'i exceptionnel. Mais le prophète va dire une chose qui va déstabiliser complètement Mu'adh. Il dit, ya Mu'adh, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Tu vois, Mu'adh, il est possible que l'année prochaine, donc quand tu reviens, que je ne serai plus là. Fatamurru bi qabri wa masjidi. Quand tu reviendras à Al-Madina, en fait, tu viendras me rendre visite sur ma tombe dans ma mosquée. Fabaka Mu'adh li firaqihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh al-Jabal s'est fondu en larmes lorsque le prophète lui a annoncé que là, tu pars, c'est la dernière fois que tu me vois au Mu'adh. Quand tu vas revenir, il n'y aura plus Nabiullah, tu vas passer sur mon qabr, tu vas me faire salam sur ma tombe. Mu'adh, son cœur est attristé, chagriné par l'annonce du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, les savants disent, il savait que la da'wah, c'était la priorité. Il y a le cœur qui est attaché, il aurait pu dire qu'au prophète d'Allah, dans ce cas, je reste auprès de toi. Je prie dans une mosquée où il y aura mille fois plus de récompenses qu'ailleurs, où je puisse avoir ton sahba, ta compagnie au Nabiullah. Mais Mu'adh, il a compris que le prophète a dit, va là-bas, inviter ces gens vers le tawhid, c'est le plus important. Et il exécute la mission que le prophète alayhi salatu wa sallam lui avait donnée. Donc, autre hadith qui montre, qui annonce le décès, le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on en vient à la maladie. On avait expliqué que, voilà, on n'avait pas dit que lorsque le prophète retourne du hajj dans le prophète alayhi salatu wa sallam, quelques temps après, quelques mois après, il va ressentir, il va commencer donc à sentir les premiers symptômes de sa maladie. Et c'est à ce moment-là qu'on avait dit que l'armée d'Oussama était partie. Et quand ils entendent que le prophète est malade, mais ce n'était pas une maladie simple, c'était quelque chose qui s'est installé, qui a duré, et que le prophète ne retrouvait plus la santé, c'est là qu'ils ont pris la décision de revenir. Donc, Mohammed ibn Ishaq, là on change, on passe d'Ibn Kathir, commentateur du Coran, à Ibn Ishaq, qui est vraiment les professionnels de la Sirah, les Mu'arrikhin, c'est un historien. Mohammed ibn Ishaq, dit que, Raja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hajjat al-wada', notre prophète est de retour du pèlerinage d'adieu, on est encore dans le mois de Dhul-Hijja. Fa'aqama bil-Madinati, il reste à Madina le reste du mois de Dhul-Hijja, ainsi que le mois de Muharram, ainsi que le mois de Safar. Et au mois de Safar, il envoie l'armée de Oussama. Et c'est à partir de ce moment qu'il va ressentir les premiers symptômes de la maladie. C'est à la fin du mois de Safar, ou alors, selon l'opinion d'autres historiens, soit c'est à les derniers jours de Safar, ou alors les premiers jours de Rabi'ul Awwal. Sachant que le prophète est décédé un 12 Rabi'ul Awwal, et que selon l'opinion des savants, on verra ça, je confirme, sa maladie a duré entre 10 et 13 jours. Donc ça correspond soit au dernier jour de Safar, ou alors au premier jour du mois de Rabi'ul Awwal. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, un soir, il فكان اول ما مبتدي به النبي عليه الصلاه والسلام فيما ذكر لي انه خرج الى بقيع الغرقد. Voilà, on a retrouvé le hadith. Un soir fi jawfi al-layl, un soir en plein milieu de la nuit, notre prophète عليه الصلاه والسلام se réveille et il va au Baqi'. Le Baqi' c'est le cimetière de Al-Madina, qu'on appelle nous communément Jannatul Baqi. Bon, Baqi, c'est à la créole on le dit, mais c'est Jannatul Baqi'. Le Baqi'ul Gharqad, on pourrait dire, c'est le terme le plus adapté. Et Baqi'ul Gharqad, c'est le rêve de chaque croyant. Le rêve de chaque mu'min, c'est d'avoir une mort Al-Madina et d'être enterré dans le Baqi'. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma arzuqna al-maut fi baladi rasulik. Celui qui meurt et qui est enterré dans le Baqi' al-Gharqad, il a la garantie de shafa'a, de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Qiyamah. Y a-t-il un plus beau cadeau de la part d'Allah que de mourir à Al-Madina et d'être enterré dans le Baqi' al-Gharqad? Dans certaines versions, lorsqu'on parle de l'au-delà, il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être ressuscité, les premières personnes de sa umma à être ressuscitées, c'est Ahlul Baqir. Les gens de Baqir, ils vont être ressuscités, et juste après, c'est Ahlul Ma'la. Ceux qui ont été enterrés à Al-Ma'la, c'est-à-dire le cimetière de Makkatul Mukarrama. On revient donc, notre prophète alayhi salatu wa sallam va au Baqir Al-Gharqad. Et dans une autre version, cette version elle est rapportée par Imam Ahmad al-Tabarani et beaucoup d'autres narrateurs, le prophète sallam était accompagné d'un khadim qui s'appelait Abu Muwayhiba. Le prophète alayhi salatu wassalam va au Baqi' et il y a Abu Muwayhiba radiallahu anhu. Il dit, oh Abu Muwayhiba, sache que Allah m'a révélé à l'instant, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi', fantaliq ma'i, viens avec moi. Accompagne-moi. Allah m'a demandé d'aller au Baqi' et de faire istighfar pour les Ahlul Baqi'. Le Prophète sallam se tient, subhanallah, dans le Jannatul Baqi' en face où il y a sous terre les compagnons, les meilleurs des hommes, ceux qui étaient avec lui depuis le début du wahi, depuis le début de la révélation, ou alors les ansar qui l'ont accueilli. C'est-à-dire les gens qu'il aimait le plus, soit ce sont les muhajirin, soit ce sont les les Ansar. Le prophète Ali Salat wa Salam a fait un doua pour l'Ahl al-Baqi' en disant Assalamu alaykum ya Ahl al-Maqabir, que la paix d'Allah soit sur vous. Le doua que le prophète Ali Salat wa Salam va faire, donc le doua connu pour les Ahl al-Baqi'. Et ensuite, le prophète s'adresse à Abu Muayhiba qui est auprès de lui, dit Ya Abu Muayhiba, inni qad utitu. Je t'explique quelque chose. Allah m'a fait une proposition. Soit mafatih al-khaza'in ad-dunya wal-khuld fiha thumma al-janna. Soit Allah me donne tous les biens de ce dunya, toutes les facilités, les ouvertures et la possibilité d'y rester tout le temps, de continuer à propager tout le temps et ensuite la garantie du Jannah. Mais j'ai préféré fakhayyartu bayna dhalika wa bayna liqa'i rabbi wal jannah. J'ai eu le choix entre ça ou alors le retour auprès d'Allah avec le paradis. Abu Muayhiba dit ya bi abi anta wa ummi. Ça c'est une expression typique chez les Arabes. Pas ma mon père et ma mère, dit que au prophète d'Allah, choisis les biens et le jannah. Il veut dire que reste, ne pars pas. Reste, choisis ce qu'Allah te donne et ensuite tu as le jannah de toute façon. À la fin de les deux propositions, il y a le jannah. Soit c'est tout ce qu'il y a de ce dunya et tu restes avec nous, tu continues à propager et ensuite le jannah, ou alors c'est maintenant tu retournes auprès d'Allah et il y a le jannah. Dit reste, obtient ses bienfaits et prend le jannah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit la wallah ya aba muayhiba, ô Abu Muayhiba, jamais, ô par Allah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah, j'ai choisi de retourner auprès de mon Seigneur et d'obtenir le jannah parce que sa mission était terminée. Thumma istaghfara li ahli al-baqi', thumma insaraf, il a continué à faire istighfar pour ses compagnons de Baqi', et ensuite il est retourné à sa maison. Autre événement qui marque le début de sa maladie, c'est-à-dire autre réaction, on va dire un peu subite, hein, une action que le prophète a fait subitement. Ça s'est rapporté par Ibn Abdul Barr, c'est des grands savants, des grands ulama de l'islam. Il dit que un peu avant le décès du prophète alayhi salat wa salam, un peu avant où ce moment où il a ressenti les migraines dans la maison de Maymouna radiyallahu anha, le prophète alayhi salat wa salam, tout d'un coup, hein, il a reçu, donc c'était un message à part d'Allah, fa kharaja ila Uhud. Le prophète salam maintenant, il va voir ses compagnons qui sont décédés lors de la bataille de Uhud. Et parmi ces gens qui sont décédés à la bataille de Uhud, il y a son oncle Hamza radiyallahu anhu, celui qui était aussi avec lui depuis Makkah, et bien d'autres sahaba. Le prophète alayhi salat wa salam va voir ses compagnons à Uhud et il va faire un namaz janaza spécial pour eux. Fasalla alayhim salatahu ala al-mayyit, comme nous on fait namaz janaza, il se tient en face des shuhada de Uhud, il va faire une prière de salat al-janaza pour les shuhada de Uhud. Le prophète donc a fait ses adieux aux ahlul baqi', et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses adieux aux ahli Uhud, c'est-à-dire les gens qu'il aimait le plus parmi les mauta, parmi les gens qui ont déjà quitté ce dunya. Viendra maintenant les adieux aux sahaba, à ses compagnons, ses épouses, ceux qui vivent avec lui. Mais il a commencé par les personnes qui étaient déjà décédées. Et à son retour de Uhud, lorsqu'il retourne, c'est là que le prophète alayhi salatu wassalam commence à ressentir une migraine intense. Et là, il commence à se plaindre de cette migraine, de ces douleurs à la tête qui devenaient donc envahissantes. Aïcha, il explique que le prophète est retourné un jour d'un janaza, d'une prière, sur un sahaba qui est décédé au Baqi'. Et Aïcha dit que j'avais mal à la tête moi aussi. Et le prophète, et je m'étais plaint au prophète d'Allah, j'ai mal à la tête. Oh Aïcha, si seulement tu savais moi comment ma tête, elle fait mal, comment est-ce que je ressens cette douleur. Et donc, le premier signe de la maladie, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était donc une migraine qui était envahissante. Le prophète alayhi salat wa salam, quelques temps après, il a commencé à ressentir un autre signe, donc qui faisait partie de sa maladie, c'était une fièvre, une poussée de température qui était presque inhumaine. Ibn Rajab, il rapporte de son livre de cet sahaba, il dit qu'on a été voir le prophète alayhi salat wa salam, fakana alayhi qatifa, il dit qu'il y avait une couverture, mais il avait une couverture sur lui, il dit qu'on ressentait la chaleur de son corps à travers la couverture. Normalement, quand quelqu'un, même si vous avez 39 ou 40, si quelqu'un est couvert, on ne ressent pas, mais dit qu'on était à proximité, et en plus, il était couvert, mais on ressentait la chaleur intense qui émanait du corps du prophète sallam. Et ils étaient étonnés au prophète d'Allah. Comme ça, tu es malade au prophète d'Allah. Comme ça, tu es éprouvé par Allah. Quelqu'un peut se dire que ben, pourquoi est-ce qu'Allah éprouve ce prophète? C'est le meilleur des hommes. Pourquoi est-ce qu'Allah ne le reprend pas dans, subhanallah, en douceur? Non. Le prophète me dit, inna kadhalika yushaddidu alayna al-bala, mais wa yudha'afu lana al-ajr. Il dit, de cette façon, Allah agit avec ses bien-aimés. Les épreuves sont plus dures, mais après, les récompenses sont multipliées. Et ça, ça rejoint un hadith général que le prophète me dit que les gens les plus éprouvés par Allah, ce sont les prophètes, ensuite ceux qui ont le degré de foi le plus élevé. Quand vous voyez des gens qui sont éprouvés tout le temps, c'est parce qu'ils sont aimés par Allah, Azza wa Jal. Et donc, le hasanat, les récompenses qu'Allah, Rabbul Izzah, va leur accorder, ce seront des récompenses encore plus grandes. Donc, le prophète, Sallallahu Alaihi Wasallam, avait mal à la tête et sa fièvre, et c'est une fièvre qui ne l'a jamais quitté. Le prophète a essayé de prendre des bains, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais c'est une fièvre qui persistait. C'est de cette façon, c'est par cette maladie que le prophète, alayhi salatu wasalam, donc va mourir, va quitter ce dunya. Donc, les deux premiers symptômes. Le prophète alayhi salatu wassalam connaît donc ses premiers symptômes alors qu'il est chez son épouse Maymouna radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wasallam, tout d'un coup il s'est réveillé, il a demandé à Maymouna, Aina ana radan, Aina ana radan, demain je serai chez qui? Le prophète qui avait plusieurs épouses, pour les sagesses que Allah Rabbul Izzah, il savait, le prophète, il demandait, demain je serai chez qui? Il a dit qu'au prophète d'Allah, demain tu seras chez Aisha radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wasallam a demandé l'autorisation à Maymouna radiallahu anha, il a demandé ijaza, et là on voit subhanallah l'approche de la prophète, il a demandé l'autorisation, est-ce que tu m'autorises à quitter ta demeure et d'aller rester auprès de Aisha radiallahu anha? Et il a reçu l'autorisation de Maymouna d'aller rester auprès de Aisha radiallahu anha. Et dans d'autres hadiths, il est dit, wa makatha fi baytiha, il est resté dans sa maison depuis ce jour jusqu'à son décès. Et le prophète est mort, la tête Mubarak appuyée sur la poitrine de Aisha radiallahu anha. Preuve de l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour Aisha radiallahu anha. Donc, à l'unanimité, ils ont dit, oui, au prophète d'Allah, tu peux aller chez Aisha radiallahu anha. Et qu'est-ce que Aisha radiallahu anha faisait pour le prophète alayhi salatu wassalam? Parmi les amals, elle essayait de soigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quelle manière? Elle lisait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mu'awwidhat. C'est quoi les mu'awwidhat? قل والله واحد قل اعوذ برب الفلق et قل اعوذ برب الناس. Mais elle le faisait, Allah Akbar, d'une façon particulière, d'une façon un peu déroutante même. Hadith de Aisha dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de plus en plus malade, il avait demandé l'autorisation de rester dans ma maison, et que ses épouses avait donné l'accord, le prophète sallam, tellement il était malade, fièvre et mal à la tête qu'il ne pouvait même plus marcher, on a dû le déplacer, il était donc appuyé, épaulé par deux sahabas. Si je ne me trompe pas, c'était Abbas, Al-Abbas, et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu majma'in. Il dit que, alors si on le retrouve, c'est un hadith, je l'ai perdu de vue, c'est le Mu'awwidhat. Aisha, radiallahu anha, elle explique, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On l'a. Aïcha, ça c'est hadith de Urwa ibn Zubair, qui dit, elle rapporte que Aïcha, il explique qu'est-ce qu'il voyait. Il dit, il voyait Aïcha, et Aïcha avait rapporté que lorsque le prophète était de plus en plus malade, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ses mains et je lisais al-Ikhlas, al-Falaq et al-Nas, wa massaha anhu biyadihi, et je prenais ses propres mains, je passais sur son corps mubarak. Et ça veut dire, pourquoi tu agis comme ça? Il dit, parce que c'est dans ses mains qu'il y a baraka, c'est pas dans mes mains, c'est le meilleur des hommes. Je lis à sa place parce qu'il est trop affaibli, mais ses mains, ce sont des mains mubarak. C'est-à-dire, chaque millimètre du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam était mubarak. Je prenais ses propres mains et je passais sur son corps après avoir lu al-Ikhlas, al-Falaq et al-Nas. Mais malgré, alors que ces versets avaient permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de connaître la délivrance lorsqu'il avait atteint de là, immédiatement, le prophète me dit que lorsque j'ai lu ce verset, c'est comme si que j'avais des nœuds, c'est comme si que j'étais amarré au niveau de la nuque, et qu'à chaque fois que je lisais un sourate, il y avait un nœud qui se détaché, et je me suis senti léger. C'était immédiat. L'effet de Al-Mu'awwidhat était immédiat sur la sorcellerie qui avait touché le prophète. Mais au moment de mourir, même le Mu'awwidhat, même les traitements ne font plus d'effet, parce que c'est pas qu'il n'y a plus d'effet, mais c'est qu'Allah a décidé que c'est un asbab l'ilmaut. C'est un asba pour retourner auprès de lui. C'est de cette façon que cette personne va quitter ce dunya. Donc Aïcha radallahu anha, elle explique comment elle lisait sur le prophète sallam et comment elle faisait passer les mains du prophète sur son propre corps afin qu'il retrouve, avec espoir qu'il retrouve la santé. Autre hadith de Aïcha indique qu'à un moment donné où sa fièvre était très intense, le prophète sallam a demandé qu'on lui apporte une bassine avec de l'eau, et le prophète sallam a pris un bain avec 7 récipients d'eau afin que sa fièvre diminue, afin qu'il retrouve un peu de nashab, un peu de fraîcheur physique. Il dit que je dois prendre un bain, je dois être en forme d'une certaine façon parce que je dois aller voir les gens. La'ali, afin que j'aille voir les gens et j'aille prêcher. Le prophète, jusqu'au dernier jour de sa vie, avait ce fikar et il doit enseigner encore aux sahaba, il doit leur donner les dernières directives. Et là, le sahaba, Aïcha explique qu'on lui a donné les 7 récipients d'eau, il a pris son bain et il est allé à la masjid, fassallah bihim, il a officié la prière, malgré qu'il était malade, il a officié la prière et il a fait un khutbah où il a enseigné, il a encore propagé aux sahaba certains points essentiels, récapitulatifs de la religion du din. Autre point, c'est pas une parenthèse, mais c'est un élément important à comprendre, là on essaie vraiment de comprendre comment était la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam, vous savez qu'il avait été empoisonné par une femme de confession juive, yahoudia. Il faut le dire clairement, c'était une femme de confession juive. Après la conquête de Khaybar, elle s'était renseignée qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wasallam aimait manger. Le prophète aimait manger la viande de cabri. Et le prophète, elle avait demandé quel est le morceau préféré. Et le sahaba dit que le prophète aime l'épaule. Et donc, elle avait préparé donc l'épaule d'un cabri ou une chèvre ou ce genre d'animal. Elle avait préparé, elle a cuisiné, elle l'a amené pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moment, et le prophète était accompagné de notre sahaba, si on retrouve son nom. Il y avait également Bishr ibn al-Barra, radiallahu anhu, qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez entendu parler de Bishr ibn al-Barra? Qui a déjà entendu le nom de ce sahaba? Levez le doigt. Personne. Même moi, je l'ai lu pour la première fois. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partageait ses repas avec tout le monde. Ce n'était pas que Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas. Ce n'était pas que les grands sahabas. N'importe quelle personne qui avait iman dans son cœur, le prophète, vous voyez, il le mettait assis, il partageait le repas. Un homme d'une grande simplicité. Un homme accessible. Ce sont là les qualités que le prophète, subhanallah, il vivait. Ce n'était pas juste des thèses. Il le vivait au quotidien. Et ce sont là les qualités que nous devons retenir. Être accessible aux gens. Être simple, tawadu, humilité. Ne jamais se considérer comme quelqu'un d'important. Moi, je suis contre. Moi, j'aime pas quand on dit que, excusez-moi, je veux pas faire de critique que, ben grand monde, ben VIP, mange là. Et le commun des mortels, au nom de quoi? Qu'est décrété que eux, ils sont plus importants pour Allah que ces gens-là? La Oumma, ils restent ensemble. Le Prophète partageait son repas avec des gens connus, mais des gens qui n'étaient pas extrêmement connus ensemble. Le prophète avait ce karam, cette générosité. Donc, Bishr ibn al-Barra, radiallahu anhu, était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il partageait cette épaule de cabri. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une première bouchée, il s'est mis à mâcher. Après, il y a deux versions. Une version où il y a eu une inspiration de la part d'Allah et une autre version que je n'ai pas retrouvée, j'avais entendu, mais à vérifier l'authenticité, qu'il y a eu une saute, qu'il y a eu une voix qui est sortie, qui a dit, ne mange pas cette viande, elle est masmouma, elle est empoisonnée. Et le prophète alayhi salatu wassalam a recraché, il n'a pas avalé cette bouchée. Mais le temps qu'il prévienne Bishr ibn al-Barra, c'était trop tard. Bishr avait déjà fait une bouchée et c'était un poison d'une extrême violence. Une bouchée de Bishr ibn al-Barra, il est décédé immédiatement. Et le prophète a compris que ça venait donc de cette viande, et il a fait venir cette femme. Il a demandé ma hamalaki ala dhalik. Comment le prophète, il n'y a pas besoin d'être un grand expert en arabe, hein, en langue arabe, pour comprendre que le prophète ne l'a pas insulté. Il n'y a pas eu des mots durs. Il a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de cette façon? Quelqu'un qui essaie de porter atteinte à sa vie. Et le prophète parle de façon très calme, très posée. Il n'a pas dit qu'amenez-la et fouettez-la, tranchez sa tête immédiatement, comme on voit certains malades qui font au nom de l'islam. Le prophète lui a posé la question, pourquoi t'agis de cette façon? Et cette femme dit, arattu, je voulais tester. In kunta nabiyan, fayutli'aka Allah. Si tu es un prophète, ben Allah te fera voir que cette viande est empoisonnée. Mais si tu es un menteur, Fa'uriha an-nas minka. Je débarrasserai cette communauté d'un traître et d'un menteur. Et elle a vu que le prophète sallam a reçu la révélation de la part d'Allah azza wa jall. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a laissé partir. Falam yu'aqibha. Le prophète ne l'a pas emprisonné, ne l'a pas puni, rien du tout. Ne l'a pas puni parce que ça rejoint notre hadith que le prophète kana la yantaqimu li nafsi. Autre point à retenir, le prophète sallam ne se vengeait jamais pour une affaire personnelle. Tu touches le din, il riposte. Les Romains arrivent, ils font l'intéressant, mais le prophète envoie une armée. Tu touches un sahaba, ceux qui ont égorgé tous les huffaz du Coran bi'ir ma'ouna, le prophète alayhi salatu wa salam s'est vengé, normal. Mais quand ça le concerne lui, il ne s'est jamais vengé, que ce soit à Mecca ou à Madina. Quand ils ont versé l'intestin de chameau, quand parmi la famille d'Abu Lahab, on mettait des branches épineuses près de sa maison, il disait, ma had al-jiran, quel est donc ce lien de voisinage? Oh, Abu Lahab, oh, mes chers voisins, est-ce que c'est une façon d'agir? Mais le prophète n'a jamais fait pareil. Nous aussi, quelqu'un nous fait du tort. Je donne un exemple, excusez-moi, tout bête. Quelqu'un met une poubelle près de votre garage. Le matin, vous sortez, ah zut, vous devez sortir de la voiture, tirer la poubelle et tout. Vous savez, c'est votre voisin, il vous fait la malice. Le lendemain, vous faites quoi? La même chose avec lui. Voilà, c'est la vengeance. Quelque chose de bête. Mais le prophète ne se vengeait pas. Pas pour des trucs bêtes comme ça. Lorsqu'on essaie de porter atteinte à sa vie, le prophète a laissé cette femme partir. Mais lorsque Bishr ibn al-Barra est décédé, il n'est pas mort tout de suite, hein, quelques temps après il est décédé de cet empoisonnement, là le prophète a fait rappeler cette femme et elle a subi la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'elle a tué quelqu'un. La peine de mort sur cette femme, c'était par rapport au meurtre de Bishr ibn al-Barra radiallahu anhu, et non pas par rapport à la tentative d'assassinat, de trahison sur le Amir, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, donc, pourquoi est-ce qu'on explique l'histoire de ce poison, de cette tentative d'empoisonnement? Le prophète sallam, il continue, il disait à son épouse, et il disait à Aïcha, le prophète sallam, il disait à qui? À Aïcha. Tout ce qu'il avait d'important pour lui, même si c'était pas en rapport direct avec le wahi, avec la propagation, il le confiait à Aïcha, radiallahu anha. Il disait, ya Aïcha, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi khaybar. Dit, oh Aïcha, tu sais, depuis tous ces mois, ces années, ça faisait 3 ans, jusqu'à 3 ans après, dire, ah, Aïcha, je ressens encore ce poison, une partie qui est rentrée en moi. Ça me fait toujours mal. Et les savants disent que pendant 3 ans, le prophète sallam, il ressentait de temps en temps cette douleur due à la petite quantité de soum, de poison qu'il a ingurgité. Ça ne veut pas dire pourtant que le prophète est mort empoisonné. Abadan. Là, c'était un livre de Sira écrit par des savants non musulmans, disent que le prophète est mort empoisonné. Non, le prophète n'est pas mort empoisonné. Mais ce poison a porté atteinte à la santé de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit que, regardez la patience de notre prophète, 3 ans, il souffre de cette douleur due au poison que cette femme avait mis dans la nourriture. Et pour quelque chose comme ça qui n'est pas en relation directe avec le wahi, le prophète trouve la nécessité de le dire à sa femme. Et les savants disent, voyez, quelle est la complicité, je pèse mes mots, la complicité qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme. Le mari doit être capable de dire tout ce qu'il importe à son épouse et vice versa. Il doit y avoir une relation de confiance et de confidence. Ce n'est pas uniquement une relation basée sur le besoin. J'ai besoin de ma femme parce que c'est elle qui fait le ménage, qui fait la vaisselle, qui fait cuire à manger, qui s'occupe des enfants. Mais à part ça, elle ne m'apporte rien. Ou que la femme dit, j'ai besoin de mon mari parce que grâce à lui, j'ai un loyer, j'ai un toit, je mange, je bois, et ainsi de suite. C'est pas une relation de dépendance. C'est une relation basée sur un amour sincère. Ça, c'est important. Le prophète ressent quelque chose, il en fait part immédiatement à Aïcha, radiallahu anha. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui avait porté atteinte à la santé du prophète, alayhi salatu wassalam, depuis la conquête de Khaybar. Hada. Maintenant que le prophète, alayhi salatu wassalam, on va dire que sa maladie est en train de s'intensifier, notre prophète, alayhi salatu wassalam, arrive à un stade que personne ne pouvait imaginer, que le prophète ne peut même plus se tenir debout pour officier la prière. Ce même prophète qui passait parfois l'intégralité de ses nuits dans les prières, à tel point que les talons de son pied Moubarak se fissuraient, s'ouvraient, et que Aïcha, je sais plus si c'était Aïcha ou une autre époque, elle me dit, oh prophète d'Allah, tout ça, oh prophète d'Allah, autant de Qiyamul Layl, autant de Tahajjud, mais Allah t'a tout pardonné. Elle dit, ya Aïcha, ou la personne à qui il parlait, afala akuna abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant tout ce qu'Allah m'a accordé? Je dois me tenir debout devant mon Seigneur, même si j'ai mal aux pieds. Dans certaines sources, il est dit que les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam gonflaient tellement il restait debout dans la position de qiyam pendant le tahajjud. Dans certaines versions, il dit que lorsque le prophète faisait doua ou qu'il pleurait, c'était comme une bouillarde. Déjà entendu une bouillarde, il n'existe plus de nos jours, qui ronfle, qui siffle. On entendait comme un ronflement tellement le prophète sallam pleurait dans le sujoud, dans la prosternation, demandant pardon à Allah. Mais pardon pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Il a rien fait comme péché. Et demander à Allah la clémence pour lui, pour sa famille, pour la umma, et qu'Allah ait pitié de l'ensemble des membres de sa umma. Et un homme qui faisait autant de ibadah, il arrive à un tel degré de maladie, de faiblesse, qu'il ne peut même plus se tenir debout sur ses deux pieds pour officier la salat. Et c'était quelque chose de très douloureux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, notre prophète alayhi salatu wa sallam va se faire remplacer dans le imam dans la salah. Il va demander à Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu d'officier à sa place. Hadith de Ubaydillah ibn Abdillah dit Aisha radiyallahu anha une fois avait expliqué comment s'était déroulée la maladie du prophète sallam. Et une fois, lorsque le prophète est alité ou vraiment ça allait plus, il a demandé à Sallannas, c'était son fikar, namaz. Est-ce que le namaz s'approche? Est-ce que les gens ont pu faire la salah? Comment est-ce qu'ils vont faire pour faire la salah? Il dit, là, non au prophète d'Allah, personne ne s'est mis debout. Là, Aïcha répond, là, ya Rasulallah, hum yantadhirunaka, ya Rasulallah, au prophète d'Allah, ils t'attendent. Personne ne se met debout tant que tu ne viens pas. Les sahaba étaient dépendants entièrement de Nabiullah. Quand le prophète venait, là, ils se mettaient debout pour faire la salah. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, demandait à Aïcha, dha'u li ma, amenez-moi de l'eau dans ce récipient. Enfin, on a amené de l'eau. Mais le prophète ne pouvait même plus se tenir debout. Mais il voulait prendre un bain pour essayer de faire la prière. Fartasal, il a pris un bain. Thumma dhahaba, il est parti, il s'est mis debout. Il a pu se mettre debout pour aller à la masjid, pour officier. En marchant, il s'est évanoui. Les sahaba l'ont ramené dans sa maison. Il s'est réveillé, il a posé la même question. As-salannas, les gens ont fait leur salat. Il dit non, prophète d'Allah, hum yantadhiruna, ils t'attendent. Les sahaba attendaient le prophète sallam. Deuxième fois, il dit, amenez-moi de l'eau. Ils ont ramené de l'eau, le prophète sallam a repris un bain, il a fait son wuzu, ses ablutions. Il s'est mis debout, il a marché avec difficulté. Il est tombé une deuxième fois sans connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé encore une fois, il a demandé, est-ce que le namaz a été accompli? Il dit au prophète d'Allah, ils t'attendent. Les gens, wannas ukufun fil masjid. Les gens restaient immobiles. Première fois qu'il ne voit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir officier la salat. Et pour eux, c'est quelque chose, c'est une transition, c'est quelque chose de déchirant. Ils comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Pourquoi le prophète ne vient pas officier la salat? Et là, le prophète, lorsqu'il a vu que deux ou trois fois, il n'a pas pu se tenir debout, c'était pour la salat de Isha. J'ai oublié de préciser. C'était pour la prière de Isha. Fa arsala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila Abi Bakr. Le prophète, il y a plusieurs versions. Dans une version, le prophète a envoyé quelqu'un voir directement Abu Bakr pour dire, oh Abu Bakr, le prophète te demande d'officier la salat. Que c'est toi qui dois être imam. Et certaines personnes, entre autres, Aisha radiallahu anha, elle avait émis cet avis que il vaut mieux que ce soit Umar. Parce que mon père, Abu Bakr, mon père, il a une voix faible et il a tellement d'émotions dans sa lecture. Pourquoi est-ce qu'il a autant d'émotions? Parce que le iman est extraordinaire, l'iman Abu Bakr. Vous vous rappelez, la wuzina iman Abu Bakr bi iman ahli al-ard dun al-anbiya la rajjah. Si on mettait d'un côté de la balance le iman d'Abu Bakr et de l'autre côté le iman de tous les sahaba, de tous les êtres humains en dehors des prophètes, le iman d'Abu Bakr pèserait plus lourd. Ajib. Kalam al-Tabi'in. C'est pas hadith, c'est parole de Tabi'in. Tellement Abu Bakr avait un iman qawi. Et Abu Bakr avait la compréhension du Coran, comme on l'a vu tout à l'heure. Lorsqu'il lisait, il pouvait pas compléter les versets. De nos jours, nous, on veut des grands qari, sab'a, ashara, qui fait tourner les têtes, qui chavire les cœurs. On a besoin d'adrénaline, on a besoin de crier Allahu Akbar, de quoi, Barakallah, figa cher, on t'aime. Tous ces cinémas, ça nous apporte quoi? Excusez-moi. Je ne critique pas, mais je critique. Ça nous apporte quoi, spirituellement? Tout ce cinéma, jusqu'à 22h, on écoute le grand Khari lire. Salatul Fajr, il n'y a plus personne. Il y a Shal Faïda. Salatul Fajr, la masjid est vide. On a écouté une lecture, on était admiratif. Effectivement, je suis le premier à admirer ce genre de lecture, parce que c'est un niveau qu'on ne peut pas atteindre, on n'est pas à leur cheville. Mais il faut que cette lecture débouche sur quelque chose. Le Coran n'a pas été, c'est pas un Coran spectacle. Le Coran n'est pas un spectacle. C'est l'Iqra, lecture, istima', écouter, tadabbur, méditer sur le sens et al-amalu bihi. Et avant ça, as-salah, lire le Coran dans tahajjud, dans les prières de la nuit, si on ne connaît pas encore, et al-amalu bihi, mettre en pratique dans notre vie, kana khuluquhu al-Quran, le prophète était un Coran, son comportement c'était le Coran. Donc, Abu Bakr, il commençait un verset, il ne pouvait pas compléter. Tellement il pleurait par amour et par crainte d'Allah. Donc, certains dit, il pensait qu'Abu Bakr, il ne pouvait pas assurer, tellement il allait pleurer. Il voulait mettre Umar ibn al-Khattab. Ils ont demandé au Prophète de mettre Umar. Le Prophète dit non. Ce sera Abu Bakr al-Siddiq et personne d'autre. Dans un second hadith, dans une deuxième version, je ne vous dis pas le nom des narrateurs, hein, ce sont, alhamdoulilah, des versions authentiques. Là, je l'ai, c'est Imam Ahmed et de Abu Daoud, rahimahumullah. Il dit, hadith de Abdullah ibn Zum'a. Alors, Abdullah ibn Zum'a, il va commettre une petite erreur. Lorsque le prophète, alayhi salat wa salam, donc était dans sa maladie, le prophète avait fait appeler Bilal, radiallahu anhu, pour donner le adhan. On parle toujours de la salat Isha. Et le prophète, lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas prier, il avait dit, muru man yusalli bin nas. Faites la prière. Faites démarrer, faites commencer la prière. Et Abdullah ibn Zum'a, il dit que je suis sorti, j'ai entendu l'ordre du Prophète, j'ai vu Umar, tout de suite. Il dit, Umar, officie, parce qu'Abu Bakr était absent, il n'était pas là. Il dit, oh Umar, officie la prière. Qum ya Umar, fa salli bin nas, fa qam. Umar dit, d'accord. Le Prophète a dit, il faut que quelqu'un fasse le namaz, je vais le faire. Umar, il commence, il dit, Allahu Akbar. Et Umar avait une voix très forte, très portante. Lorsque le Prophète a entendu la voix de Umar ibn Khattab, le Prophète a dit, où est Abu Bakr? Pourquoi c'est pas Abu Bakr qui officie? Et Umar a complété sa salat, ensuite Abu Bakr est venu, et le Prophète a demandé que ce soit Abu Bakr et personne d'autre qui officie. Le Prophète a dit, il y a la citation, si je le retrouve, il dit, Ya'ballahu, là je le retrouve pas, Allah n'accepte personne d'autre si ce n'est Abu Bakr al-Siddiq. Et Umar a été voir Abdullah ibn Zum'a, a dit, pourquoi tu m'as ordonné d'officier? C'est-à-dire, tu m'as mis dans une situation embarrassante, là. Comme si je désolais pour Hassan. Il a dit que j'ai pas vu Abu Bakr, donc j'estimais que tu avais plus de droits. Donc il avait, alhamdoulilah, c'était un ijtihad également. Ça, c'est un autre masla. Mais Abu Bakr, on voit bien que c'était lui et uniquement lui qui avait l'autorisation du prophète alayhi salatu wassalam pour officier par rapport aux qualités spirituelles, par rapport à son vécu, par rapport au sacrifice qu'il avait fait pour le dîn d'Allah, azza wa jal. Troisième. Pas dernier, mais troisième hadith qu'on va citer à propos, parce que ça c'est un événement important, ça, qu'Abu Bakr prend le relais, et c'est lui qui va officier la prière, parce que après ça, le prophète n'officiera plus jamais la prière. Il dit que, à un moment donné, troisième hadith, à un moment donné, le prophète, alayhi salat wa sallam, si je ne me trompe pas, selon Ibn Kathir, enfin c'est pas selon moi, c'est pas si je ne me trompe pas, Ibn Kathir, il y a différence. Certains mouarikhin disent c'est un samedi, Ibn Kathir dit c'est un jeudi. Somme les kathir, on se base plus sur lui, dit le jeudi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti un peu mieux. Donc, il a demandé à deux personnes de l'épauler, de l'embrasser, de le prendre et de l'amener accomplir la salat de Zohar. Et Abu Bakr était déjà en train d'officier. Lorsqu'Abu Bakr a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver, Abu Bakr, il s'est mis en retrait, comme si qu'il est sur le musalla du imam, il s'est mis en retrait en pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait prendre la place devant en tant qu'imam. Le prophète sallam a fait un signe à Abu Bakr, reste à cet endroit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ces deux personnes de le mettre assis ila janbihi, près d'Abu Bakr. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fakana Abu Bakr bisalli, wa huwa ya'tammu bi salati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est, le prophète faisait, Abu Bakr suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa salat, et les gens suivaient la salat de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Donc, à ce moment, le prophète a pu sortir, pas officier complètement, mais il a pu rejoindre. C'était donc un jeudi, selon certaines sources, salat de dhuhr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était senti un petit peu mieux, il a pu rejoindre la jamaat et accompagner Abu Bakr al-Siddiq dans la salat de dhuhr. Mais, quelques temps après, et là, ça nous ramène vers une date de laquelle il n'y a pas de divergence, Yom al-Ithnain, un lundi. Hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit que ce lundi, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, était en train d'officier la salat de Fajr. Wahum sufufun fi salat. La salat avait commencé, les gens étaient déjà en rang. Et le prophète sallam, vous savez que la maison du prophète sallam était dans la mosquée, d'accord? Et il n'y avait pas de porte, c'était juste un sitre, un rideau qui séparait sa maison de la masjid. Fakashafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sitra al-hujra. Le prophète a ouvert le rideau de la maison de Aïcha, parce qu'il était dans la maison de Aïcha, et il a regardé les sahaba en train de faire la salah. Les sahaba dit, yanzuru ilayna wa huwa qa'imun. Il nous a regardé, il était debout. Ka'anna wajhahu waraqata mushaf. Je trouve pas la traduction exacte. C'était comme des feuilles du mushaf, du Coran qui étaient ouvertes. Je pense que la traduction n'est pas correcte. Elle dit que le visage du Prophète était illuminé, rempli de nour, rempli de lumière. Thumma tabassama yadhhak. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à sourire. Mais un sourire, il riait presque. C'était un sourire de satisfaction. Il a observé quelques secondes les sahaba. Et le sahaba dit, fahamamna an naftatina min al-farah. À un moment donné, c'est presque qu'on était perturbé dans notre namaz. Pourquoi est-ce qu'ils étaient perturbés? Biru'yatin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. On était perturbés parce que enfin, ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas revu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de sourire. C'est un sahaba pensé que maintenant, khalas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bien. Il n'est plus malade. Et maintenant, il va nous rejoindre et tout va recommencer comme avant. Ils étaient heureux. Ils ont dit qu'ils ont vu le visage illuminé du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de sourire. Et Abu Bakr aussi, il était rempli de joie. Il a commencé à reculer, comme l'autre fois, pour que le prophète prenne sa place. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a fait signe de continuer. Et on pensait qu'il allait nous rejoindre. Mais le prophète a fait signe, fa ashara ilayna an atimmu salatakum. Complété. Il a fait un signe, je ne sais pas c'était comment le signe, un signe pour que les sahaba comprennent qu'il fallait continuer la salat. Et le prophète alayhi salatu wassalam a refermé le rideau, et c'est en ce jour qu'il a quitté ce dunya, après avoir contemplé une dernière fois Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu en train d'officier la salat. Les muhaddithin, les mu'arrikhin rahimahumullah, ils expliquent que ça faisait trois jours que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas sorti de sa maison, que les sahaba donc 3 jours sans voir le prophète alayhi salatu wassalam. C'était une situation extrêmement difficile pour eux, et lorsqu'ils ont vu donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'était le plus grand moment de joie. Et en commentaire, les muhaddithis nous expliquent que le prophète alayhi salatu wassalam sourit parce qu'il voit sa mission s'est accomplie. Il voit Abu Bakr al-Siddiq qui a déjà pris le relais, qui a déjà pris la relève, et que maintenant il peut tranquillement retourner auprès d'Allah. Il a transmis le amana, il a transmis cette responsabilité au Habib, à Thani Yathnain et Idhuma Filghar, à celui qui était avec lui dans la tombe, Abu Bakr al-Siddiq, qui maintenant va prendre les rênes de la Ummah, et que la Ummah est entre deux de bonnes mains. C'était là la joie, la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sait qu'il peut maintenant retourner tranquillement auprès de son Seigneur, que sa mission s'est parachevée, sa mission s'est complétée. Et parmi les doigts, puisqu'on a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait d'aller faire la salat, il demandait que quelqu'un puisse y, jusqu'au dernier moment, le prophète alayhi salatu wa sallam essayait de prier avec les sahaba. Et parmi les dernières paroles que le prophète alayhi salatu wassalam a prononcées avant la mort, avant son décès, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Oh musulmans, n'oubliez jamais la salah, n'oubliez jamais la salah. Ça faisait partie des dernières recommandations que le prophète alayhi salatu wassalam avait prononcées jusqu'au moment de mourir. Hatta ja'ala yugharghiru biha fi sadri wa la yafidu biha lisanu. Un tel point qu'à un moment donné, il pouvait même plus prononcer ces paroles. Mais c'était comme une voix qui sortait de sa poitrine, où on ne comprenait plus vraiment, on ne distinguait plus le son, mais on savait qu'il était en train de continuer à dire ça. Parmi les derniers conseils qu'il a donné à sa Ummah, salat, les namaz. Ne ratez jamais une prière. C'est la chose la plus importante qu'Allah nous a accordée. C'est la clé. Donc, on interprète. C'est la clé pour que le mu'min, il va nouer une relation avec Allah. Et c'est la clé pour accéder au Jannah. Petite parenthèse nécessaire pour éclaircir un point qui est parfois exploité par des personnes qui n'ont aucun attachement et plutôt même de l'aversion pour Abu Bakr, Umar, Uthman et le reste des sahaba, et principalement Aïcha radiallahu anha. Avant de mourir, le prophète alayhi salatu wassalam, l'idée de Sakaratul Maut, il a demandé aux sahaba à un moment donné d'amener un support, un kitab. Mais quand on dit kitab, c'est pas comme un livre, c'est un support pour qu'on écrive quelque chose. Il va dicter quelque chose pour qu'on écrive. Il dit qu'avec ça, لَنْ تَضُلُّ بَعْدَهُ. Je vais écrire, je vais vous écrire quelque chose, et avec ça, vous ne serez jamais garés. Donc, il avait des gens qui écrivaient le wahid, donc quelqu'un qui était prêt à écrire pour lui ce qu'il allait dicter. Mais Omar ibn al-Khattab a compris que le prophète était épuisé par sa maladie, et Omar a eu pitié. Il a dit que, oh musulmans, notre prophète est fatigué, il est malade. Il n'y a pas nécessité de faire ça. Vous avez le Coran qui est complet. Le Coran est amplement suffisant qu'on laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam se reposer, alors que d'autres sahaba voulaient que le prophète ordonne des décrets, peut-être qu'il allait annoncer quelque chose. Mais il n'y avait rien à annoncer. Omar avait compris al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mais c'était min shiddati at-tahammus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était soucieux jusqu'à la dernière seconde des derniers conseils qu'il peut encore donner, qu'il peut encore prodiguer à sa umma. Et pourquoi est-ce qu'on détaille ce point-là? Certaines personnes détournent ce désir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet ordre qu'il avait donné. Et selon eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait dire à la umma qu'après moi, le calife, ce sera Ali et personne d'autre. Il dit que Omar l'a empêché de le faire afin que le khilafa soit accaparé par Abu Bakr en ce moment. Et ça, c'est typique de ce genre de personnes qui essaient de détourner, de contourner les textes, de les sortir de leur contexte et pour, afin que ces textes-là rejoignent un petit peu leur pensée, leur opinion. Maintenant, si nous, les réponses, les jawab que nous avons, c'est kafi, c'est des jawab, pardon, entièrement tout à fait suffisante et qui donne une réponse très claire. Les ulama disent que c'était là encore, comme l'a dit le prophète sallam, il voulait absolument donner des indications aux sahaba. Maintenant, quand on analyse d'autres hadiths et d'autres situations identiques, on voit qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam voulait transmettre dans les derniers moments de sa vie. Hadith de Aisha radiallahu anha, de lequel il dit que dans les derniers instants de sa vie, le prophète sallam avait dit, là il n'avait pas demandé qu'on écrit, il avait dit, appelez Abu Bakr et son fils, likay la yatma'u fi amri Abu Bakr tami'a. Il dit, appelez Abu Bakr, que je lui parle, que je lui transmette un message, afin que personne ne convoite la place qui est réservée à Abu Bakr al-Siddiq. Hadith authentique. Rapporté par Mohamed, afin que personne ne convoite la place que je veux donner à Abu Bakr. Les ulama disent que c'était ça le contenu du dernier message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donner pour que personne n'ait de divergence après son départ. Et le prophète rajoute, ya'ballahu dhalika wal mu'minun, que Allah, il n'accepte que Abu Bakr et personne d'autre. Autre hadith, toujours rapporté par Imam Ahmed. Et là, il est mentionné l'écriture. Le prophète dit que faites venir katif. Katif, c'est un morceau d'ossement hein, pour qu'on écrive, afin que je fasse écrire, on va dire, un texte concernant Abu Bakr. La yakhtalifu alayhi ahad, afin que personne ne diverge à propos du rôle que devra tenir Abu Bakr après mon décès. Et là, le prophète sallam dit, ya'ballahu al-mu'minuna an yukhtalafa alayka ya Abu Bakr. Oh Abu Bakr, sache que Allah et ainsi que les croyants n'acceptent aucune divergence à ton sujet. Que ce sera toi le futur amir. Donc, ça c'est une deuxième piste. Il y a un troisième hadith. Ça, c'était 5 jours avant de mourir. Le prophète avait fait un khutbah. Vous vous rappelez, on avait dit, mais on n'avait pas détaillé tout à l'heure, que le prophète avait pris un bain. Il était sorti, il avait officié, il avait fait un khutbah, un sermon. Et dans ce sermon, il avait rappelé aux musulmans, Fadl al-Siddiq, la valeur d'Abu Bakr al-Siddiq parmi tous les sahabas. Et les savants disent que c'était là le message que le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait délivrer aux derniers instants avant de mourir, et non pas ce que certaines personnes essaient de détourner en disant que c'était pour désigner le khilafat de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Le sakarat, les derniers instants, comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a vécu l'agonie, le sakarat ou le maut? Le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé à Aisha radiallahu anha d'apporter un récipient avec de l'eau, et le prophète alayhi salatu wassalam ja'ala yadkhulu yadahu fil ma fayamsahu biha wajha. Il mettait sa main bénie dans cette petite bassine d'eau, et il passait sa main, donc mouillée sur son front, et il disait, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Je jure que la sakarat ul maut, qu'avant la mort, il y a cette étape d'agonie, et c'est une étape difficile. Le prophète sallam a souffert également de sakarat ul maut. Et avant de mourir, parmi les derniers douas qu'il disait, Allahumma a'inni ala sakarat ul maut. Oh Allah, aide-moi! Aide-moi à passer l'étape de Sakaratul Maut, de l'agonie, les douleurs de la mort, les douleurs de la séparation du corps et de l'âme. Et les, en commentaire, les savants, rahimahumullah, ils posent la question, selon vous, pourquoi est-ce que notre prophète quitte ce dunya avec Sakaratul Maut et non pas tranquillement, sans la moindre difficulté? Il dit que c'est une sagesse de la part de notre Seigneur, de la part d'Allah Azza wa Jal, afin que les sahaba qui étaient autour d'eux et l'ensemble des musulmans qui vont lire ces textes, ils comprennent qu'au moment de mourir, quel que soit notre degré de spiritualité, l'agonie de la mort est une étape extrêmement douloureuse. Et même si on ne voit pas les signes de souffrance, mais il y a souffrance. Il y a parfois où, je sors un peu du sujet, il y a des gens qui le protègent, il y a des personnes qui meurent en soins intensifs, ou plongées dans le coma et la personne meurt. Et on dit qu'il est parti tranquillement, tout doucement. Personne ne part tranquillement. Personne ne part doucement. Même quelqu'un qui meurt subitement, arrêt cardiaque foudroyant, ou Allah nous protège, un accident violent de voiture où la personne meurt en une fraction de seconde, il ne faut pas penser que ben, il n'y a pas eu de sakaratul maut, il n'y a pas eu d'agonie. Le temps, c'est le temps des hommes. Ce n'est pas le temps du monde de l'invisible. Le temps du monde de l'invisible est totalement décalé. Ce qui peut nous paraître, nous, comme un instant, une fraction de seconde, ça peut être une étape pour le monde parallèle, le monde de l'invisible. Donc même quelqu'un qui meurt dans son sommeil, où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, il y a des choses terribles qui se passent, parce que le ruh qui quitte le corps, c'est un moment extrêmement douloureux, bien sûr beaucoup plus douloureux pour le kafir, ensuite pour le pécheur en Dieu aussi, ensuite pour le pécheur, et moins douloureux pour le croyant, pour les pieux, mais qui reste quand même une étape douloureuse, car notre prophète alayhi salatu wassalam lui-même a souffert de sakaratul maut, de cette douleur qu'il a eue quand son ruh, son âme bénie a quitté son corps mubarak. Et donc, la maladie du prophète alayhi salatu wassalam ainsi donc a duré entre 10 et 13 jours. Et parmi les paroles qu'on peut retenir également, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit une parole également à Fatima radiallahu anha pour la rassurer. Sache que la courba, il n'y aura plus de taklif, il n'y aura plus de difficulté pour ton père après cet instant, pour la rassurer que je vais retourner auprès de mon Seigneur, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de difficulté. Je tiens à citer ce hadith dans cet ordre, et parce que on retient une leçon, les savants disent que c'était après que le prophète alayhi salat wa salam certainement ait vu les anges qui lui annoncent la bonne nouvelle, qu'il retourne auprès d'Allah. De la même façon, lorsque le croyant quitte ce dunya, ce mu'min trouve une tranquillité, une quiétude dans son cœur. Les gens qui sont autour de lui pleurent, ils sont attristés parce que Dada ou Nana est en train de mourir, ou mon mari meurt, ou mon fils est en train d'agoniser. Mais la personne qui meurt, certes, il y a un moment de souffrance, mais ensuite il y a une raha, il y a une tranquillité, parce que le mu'min qui meurt reçoit la visite de l'ange de la mort sous son plus bel aspect, rempli de nous. On avait parlé de ça une fois dans Ramadan, il me semble ici, accompagné de 500 malaïka qui lui annoncent tous la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de toi. Salam alayka da satan sosi ibad Allah. Que la paix d'Allah soit sur toi, au serviteur d'Allah. Allah yuqri'uka salam. Allah t'adresse ses salams. Sois le bienvenu. Des nouvelles qui remplissent le cœur du défunt de joie. Il a un pied de ce monde et un pied dans l'au-delà. Il sait que quand il meurt, c'est douloureux, c'est difficile. Mais quand le ruh va quitter son corps, il va commencer à jouir, à profiter des bienfaits de l'au-delà, à condition que ce soit une personne qui avait iman et qui accomplissait de bonnes actions et qui restait éloignée des péchés. Parmi les points, j'allais dire des détails, astaghfirullah, les points qu'on peut décrire, les descriptions de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, du décès du prophète sallallahu alayhi wassalam, au moment où il était dans les derniers instants, Abdurrahman ibn Abi Bakr, le fils d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, est rentré dans la chambre de Aisha radiallahu anha, et il avait avec lui un siwak, un miswak. Il avait avec lui un miswak, il était en train de l'utiliser. Le prophète alayhi salatu wassalam a regardé le miswak. Il ne pouvait même pas dire tel qu'il voulait. Il ne pouvait même pas tendre sa main pour lui demander, tellement le prophète alayhi salatu wassalam à ce moment était affaibli. Aisha radiallahu anha, elle a tout de suite compris le regard de son mari sallallahu alayhi wasallam. Et elle a demandé à Abdurrahman ibn Abi Bakr, donne-moi ton miswak. Et Aisha, elle a mâché le miswak qui est dur, on écrase pour qu'il devienne plus mou, et elle a donné au prophète alayhi salatu wassalam, qui a nettoyé sa bouche, qui a fait le miswak juste avant de rendre l'âme, avant de dire fir rafiq il a'la, auprès de toi ô Allah, auprès des plus hauts degrés ô Allah. Donc parmi les dernières actions que le prophète alayhi salatu wassalam a fait au moment de mourir, c'était le siwak, une grande sunna. quand il faut en aucun cas minimiser les sunnah. Jamais se dire que ça c'est juste un bâton, c'est comme ça. Là, wallah, c'est le siwak et c'est le siwak. C'est d'une importance capitale. Même si on va trouver mille et un produits qui va apporter des bénéfices, on n'a rien à faire. On peut utiliser, il n'y a pas de mal. Le siwak, sunnatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et par l'utilisation du siwak, il y a le contentement d'Allah. Donc, une des dernières actions manuelles, une des dernières amals que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a fait, si je ne me trompe pas, c'était Aïcha radiallahu anha. Non, lui-même. Fastan nabi, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, s'est nettoyé les dents, la bouche lui-même. Famara aitu. Et Aïcha dit, je n'ai jamais vu quelqu'un faire le siwak avec autant d'élégance et de façon aussi appliquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à ce moment. Pourquoi? Parce qu'il va retourner auprès d'Allah. Il veut qu'il y ait le parfum le plus appréciable, la meilleure des haleines qui se dégage de sa bouche mubarak, la bouche mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent également, voyez Aïcha radiallahu anha, elle a décrypté le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un signe de la complicité, de la muhabba qu'il y a entre l'homme et la femme. Il y a parfois, l'homme n'a pas besoin de parler. Ou vice versa, c'est pas uniquement le monsieur, hein, c'est la femme. Il y a une situation qui ne le plaît pas. Le mari n'a pas besoin d'un discours, ou la femme n'a pas besoin que le mari s'exprime. Il doit immédiatement comprendre qu'est-ce qui va pas, parce qu'il connaît son mari, ou le mari connaît sa femme. Ça peut être un regard, ça peut être il baisse sa tête, ou un geste, il décrypte tout de suite. Ça, c'est à partir du moment où il y a mawadda wa rahma, vraiment l'amour. Et il y avait un amour exceptionnel. Quand le prophète alayhi salatu wa salam prend une bouchée de nourriture, il met dans la bouche de Aïcha radhiallahu anha. Tout ça, c'est pour montrer comment le prophète aimait sa femme. Et Aïcha, elle prend le miswak de Abdurrahman ibn Abi Bakr, il donne au prophète sallam, il mâche. Et le prophète alayhi salatu wa salam fait son siwak avant de mourir. Les savants disent également, grand sharaf, grand honneur pour Aïcha radhiallahu anha. Sa salive était en contact avec la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a quitté ce monde. Parce qu'elle a mâché le miswak que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris. Autre grand honneur pour Aïcha radhiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans sa maison. Ses derniers jours, c'était auprès d'elle et personne d'autre. Autre honneur pour Aïcha, Umm al-Mu'minin radhiallahu anha, notre mère à tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et décédé. La tête, sa tête mubarak appuyée sur sadr, sur la poitrine, sur Aïcha radhiallahu anha. Preuve encore de l'attachement que le prophète avait pour son épouse. Allah Rabbul Izza aurait pu faire mourir son prophète l'épée à la main. Non. C'était là également une leçon pour l'humanité sur les relations humaines, sur l'amour qu'il peut y avoir. Le prophète n'a pas été terrassé. Ça, c'est déjà un point. Mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son épouse, l'importance de ce genre de relation et la place de la femme dans l'islam, makanatul al-mar'a, c'est la seule qui comprend et qui interprète les désirs du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces derniers moments et qui répond présent. C'était une femme. La première personne à répondre présent dans les premiers jours de l'islam, c'était une femme. C'était qui? Khadija. Elle avait tout compris, la mission, la réalité, l'interprétation, la venue de l'ange Jibril. Elle avait tout cerné, elle avait orienté Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vers Waraqa bin Nawfal et tout s'est mis en marche parce que Khadija assurait, elle était là. À la fin, qui c'est qui assure? C'est Aïcha radiallahu anha. Ce dîn commence, il prend son envol avec le soutien d'une femme et, je ne dis pas qu'il termine, mais dans les derniers jours de la prophétie, c'était avec le soutien d'une autre de ses épouses. Maintenant, si quelqu'un vous dit que la femme n'a pas sa place dans l'islam, dites à ces gens de lire l'histoire de notre religion, de lire la sirah. Hada. Parmi les derniers doigts de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam également, avant de mourir, et ça c'est un doigt, je pense qu'il faut le mémoriser. Également, c'est pas un détail, mais c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Certains savants disent qu'il est bon quand quelqu'un est de Sakaratul Maud de passer, soit la personne peut faire elle-même, ou alors de prendre un peu d'eau, de mettre sur le front de la personne qui est en train de mourir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avant de mourir. Donc c'est une action qui soulage la personne qui est dans Sakaratul Maud de l'agonie. Autre leçon à retenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les derniers doigts qu'il faisait, avant de mourir, il le faisait régulièrement. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilay. Toutes les louanges reviennent à Allah. Oh Allah, je te demande pardon et je te demande d'accepter mon repentir. Alors que le prophète sallam n'avait aucun péché. Les savants disent que ça fait partie des doigts qu'il est bon de lire lorsqu'on atteint un certain âge, l'âge proche du décès du prophète sallam. Subhanallah wa bihamdihi, c'est connu. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Le prophète sallam le lisait régulièrement à partir du moment où il avait reçu les signes de la part d'Allah azza wa jalla qu'il allait bientôt quitter ce dunya. Maintenant, les dernières paroles que le prophète alayhi salatu wa salam a prononcées avant de mourir, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, fir rafiq il a'la. Hadith de Aïcha. Tous les hadiths sont de Aïcha. Pourquoi? À la fin de la vie, parce que c'était auprès d'elle que tout s'est passé. Aïcha avait dit que le prophète sallam, une fois, lui avait dit, alors quand il était en bonne santé, il a dit que, sache que chaque prophète qui meurt reçoit un choix. Il a un choix, soit, si je retrouve le texte. Innahu lan yuqbada nabiyyun qat hatta yara maq'adahu min al-jannah. Alors, chaque prophète qui doit mourir voit la vision de sa place dans le Jannah. Ensuite, il a le choix entre rester vivant encore ou retourner maintenant immédiatement auprès d'Allah Azza wa Jal. Il avait dit à Aïcha radhiyallahu anha une fois, comme ça, sans précision à quelle époque. Il a dit que lorsque maintenant le prophète alayhi salatu wassalam était dans l'agonie, dans les derniers instants de sa vie, wa ra'suhu ala fakhidi, dans cette version, sa jambe était sur mes cuisses. Dans cette version, c'était appuyé contre la poitrine de Aïcha. Dans d'autres versions, c'était sur les cuisses de Aïcha. Petite parenthèse, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allongeait, il posait sa tête sur le fakhid, la cuisse de Aïcha anha, et selon certaines sources, il lisait le Coran par cœur. Proximité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans la vie de tous les jours, les gestes du quotidien avec Aïcha radhiyallahu anha. Ça, c'est l'amour. Qui c'est qui passe du temps près de sa femme comme ça? Il a dit, mais Minez, oh, il n'y a pas besoin. Ça, c'est muhabba. Restez un peu, qu'Allah nous donne tawfiq, qu'Allah nous se mette en pratique, qu'on quitte un peu tout ce qui nous éloigne des réalités, de l'amour réel, ceux qui méritent notre amour. Le prophète passait du temps, il n'était pas en train de prêcher à Aïcha, il n'était pas en train de l'expliquer des hadiths, tafsir, Qur'an, passait du temps avec son épouse. Donc, il dit que donc, dans ces derniers instants, il avait sa tête mubarak sur mes cuisses, il s'est évanoui, rushi alayhi, il s'est évanoui un instant, falamma afaqa, lorsqu'il a repris conscience, shakhasa basaruhu nahwa saqfil bayt, son regard s'est porté vers le toit de ma maison, et il a dit, Allahumma fir rafiq al-a'la, oh Allah, je choisis, en ce sens donc, de retourner auprès de toi, je choisis la plus haute des compagnies, oh Allah azza wa jal. Et là, Aïcha dit que, à ce moment, j'ai tout de suite fait le lien avec ce qu'il m'avait dit une fois, que au moment de mourir, les prophètes voient leur place dans le Jannah, et ensuite ils ont le choix. Au moment où il s'était évanoui, il a eu cette vision, et il se réveille, et il donne le verdict, sa décision, c'est le Jannah, c'est de retourner immédiatement auprès d'elle. Il a dit que, idhan la yujawiruna. Elle a compris qu'à partir du moment où il a prononcé cette parole, c'est fini, le prophète ne sera plus jamais parmi nous. Fa'araftu annahu hadithahu. Et j'ai donc reconnu que c'était ce qu'il m'avait annoncé. Et cette phrase, il le disait, il le répétait à un moment donné, wa aradadhu buhatun. À un moment donné, il y a eu comme si il s'était un peu comme étranglé, et il a dit avec une voix qui était peu audible, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Oh Allah, je veux être avec ceux que tu as comblés de tes bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux et les salihin. C'était donc les dernières paroles que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prononcées avant de mourir. Lorsqu'il a reçu ce choix, il a dit, oh Allah, je préfère retourner auprès de toi. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam, avec ces paroles, a quitté ce dunya après qu'il ait fait le siwak dans la maison de Aïcha radiallahu anha. À ce moment, Abu Bakr al-Siddiq est absent. Il n'est pas dans la Masjid Nabawi, il n'est même pas dans, on pourrait dire, dans le centre de Madina, il est dans un quartier qui s'appelle As-Sunh. Il est dans un quartier un peu éloigné. Il arrive en urgence. Abu Bakr al-Siddiq entend la nouvelle et il vient immédiatement. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, si on voulait parler de son histoire avec le prophète alayhi salatu wassalam, il faudrait passer en revue toute la sira, depuis Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, jusqu'à cet instant. Abu Bakr al-Siddiq entend cette nouvelle, il arrive rapidement dans la Masjid Nabawi. Il arrive, le regard sévère, falam yukallim an-nas, aucun salam à personne. Pas de parole, il parle à personne. Il va immédiatement dans la maison de sa fille Aïcha radiallahu anha. Et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé, qui est recouvert d'un drap. Fakashafa an wajhihi, Abu Bakr al-Siddiq découvre, Allahu Akbar, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est rapproché, il l'embrasse sur son front. Dans une version, il dit, ô prophète d'Allah, ta beauté est rayonnante, que tu sois vivant ou décédé, tu es d'une grande beauté. Et dans une version plus connue d'Imam Ahmad, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, embrassé, Qabila, il s'est approché de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, famaddafahu, il a embrassé, jabha, le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa nabiya, oh mon prophète, c'est une lamentation, oh mon prophète, tu nous as quittés. Il s'est rassis, il s'est courbé de nouveau, il a embrassé une deuxième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son front, il dit, wa safiya, oh mon bien-aimé, c'est-à-dire, oh mon bien-aimé, tu me quittes, tu nous as quittés. Il s'est assis. Il s'est courbé une troisième fois, il a embrassé le prophète sur son front, il dit, wa khalila, oh mon ami proche, oh mon ami intime, il a dit, ma ta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oh musulman, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés. À ce moment, c'est le seul, certainement avec Aïcha radiallahu anha, et les proches vraiment, qui ont réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de quitter ce dunya. Abu Bakr sort de la maison de Aïcha radiallahu anha, parce que quand il est entré, il a entendu tout ce qui se passait, les gens, ce qu'ils disaient. Il n'a même pas voulu parler aux gens. Il sort, il sait qu'il y a eu urgence. Kharaj Abu Bakr, il sort, il voit Omar qui parle aux gens, qui est en train de parler. Il a dit, Omar, ijlis, assieds-toi. Omar refuse, il est tellement agité. La réaction d'Omar al-Khattab, c'était quoi? On le verra dans un instant. On entend le voir, Omar al-Khattab dit, qui ose dire que le prophète est mort? Qui ose dire, je le coupe la tête? Le prophète est pas mort. Il est parti voir Allah, comme Moussa alayhi salam avait un rendez-vous de 40 jours avec son Seigneur. Le prophète est absent, son corps est là, il revient. Et attention, quand il va revenir, je vais lui dire tous ceux qui ont osé croire qu'il était mort et il vous punira. Abu Bakr, Omar, il s'emporte, il va dans des interprétations parce qu'il ne peut pas accepter, le prophète ne peut pas nous quitter. Tellement Omar ibn al-Khattab, certains sahaba, ils pouvaient même plus tenir debout, ils sont tombés, sans connaissance. D'autres, leurs jambes ne les tenaient plus. Mais Omar, c'était la force. Omar, c'était la puissance, c'était fort de caractère. C'était pas quelqu'un qui allait pleurer, qui allait fondre en larmes. C'était quelqu'un qui manifeste, pas sa colère, mais cette fougue. Il essaie de contourner cette nouvelle, il dit que non, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui ne veut pas accepter cette nouvelle. Et Abu Bakr dit, Omar, assieds-toi maintenant. Omar refuse, non, je n'accepte pas. Et Abu Bakr, même s'il voit que Omar continue à bouger, et il parle aux gens. Et les gens quittent Omar tout de suite. Tout le monde s'attroupe autour d'Abu Bakr, parce que les gens savaient que la sagesse venait de la bouche des paroles d'Abu Bakr. Il dit, Amma ba'd, ô musulmans, sachez, man kana minkum ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Ô musulmans, ceux qui adoraient, il n'y avait personne qui l'adorait, ceux qui adoraient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachez que Muhammad est mort. Sachez que c'est un être humain. Et ceux qui adorent Allah, c'est-à-dire prise de conscience, n'oubliez jamais qu'on adore Allah, on suit cet homme qui est un mortel, un homme, mais notre objectif c'est l'adoration d'Allah. Celui qui adore Allah, qu'il sache que fa inna Allaha hayyun la yamut, qu'Allah est éternel et qu'Allah ne meurt pas. Et il a lu le verset Oma Muhammadun illa rasul qad khala min qablihi rusul, l'intégralité du verset. Et dans la suite du hadith, il dit que wallahi laka anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya hatta talaha Abu Bakr. Il dit que le sahaba dit, on fait qasam. C'est comme si qu'on n'avait jamais entendu ce verset jusqu'à ce qu'Abu Bakr le lit. Et quand Abu Bakr l'a lu, tout le monde, c'est comme si tout le monde s'est rappelé et les gens se sont mis à répéter ce verset. Et c'est à ce moment que les gens ont réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Umar ibn al-Khattab, hadith de Sa'id ibn al-Musayyib, dit, Umar ibn al-Khattab dit, wallahi, ma huwa illa an sami'tu Abu Bakr talaha. Il dit que lorsque j'ai entendu Abu Bakr lire, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khala min qabli rusul, ma taqilani rijlaya, mes jambes ne pouvaient plus me supporter. Umar, celui qui était capable d'affronter 5, 6, 7 ennemis en même temps, l'homme, un des hommes les plus forts de son époque, celui que les gens disaient que lorsque Umar se déplaçait avec un groupe d'hommes, on pensait que lui, il était à cheval et les autres étaient à pied. Tellement il était grand, il était fort, il était chauve, c'était une carrure, quelqu'un d'impressionnant. force physique et force mentale. Il dit, mes jambes ne supportaient plus mon poids, je me suis mis à trembler, je ne pouvais même plus rester debout. État de choc. Lorsque j'ai entendu Abu Bakr lire ce verset, et alimtu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad mat. À ce moment, j'ai réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et quelques temps après, petite parenthèse, après le bay'a, après qu'ils aient fait le serment d'allégeance à Abu Bakr, Umar a fait un khutbah, il a réuni les gens, dit, oh musulmans, je retire ce que j'avais dit l'autre fois. Effectivement, mon prophète est décédé. Abu Bakr avait raison. J'avais dit ça parce que j'étais trop attaché. J'avais espoir qu'il revienne nous voir, qu'il ne nous laisse pas. Mais c'est la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Maintenant, il nous a laissé hadal kitab. Allah a choisi pour son prophète un remplaçant. Vous le suivez. Il nous a laissé hadal kitab, ce livre dans lequel il y a la guidée, qu'on suive donc ce livre. Umar maintenant a pris conscience du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il retrouve donc ses repères. Il sait qu'il faut suivre le amir Abu Bakr et recommencer donc à suivre le Coran. Anas ibn Malik radiallahu anhu il dit ce que mon ami Mujahid a dit tout à l'heure. Lamma kana al-yawm alladhi qadima fihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-Madinah adaa minha kull shay. Anas décrit, c'est-à-dire le jour où Muhammad ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, lorsqu'il a mis son pied béni, il a fait le premier pas dans la ville de Madina. La ville s'est illuminée. Il y a eu une lumière immédiate qui est descendue de la ville de Al-Madina Nabawiyya. La ville est devenue illuminée uniquement par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. Lorsqu'il est décédé, il y a eu une obscurité qui s'est emparée de la ville. Cette lumière est partie avec lui. La lumière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait couvert toute la ville de Madina. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il est décédé, il est retenu auprès d'Allah. Cette lumière également a quitté la ville de Madina. On a vu pour une première fois Madina obscure parce que la lumière prophétique s'était éteinte. Ali ibn Abi Talib. Comment les sahabas ont réagi? On a vu quelques exemples tout à l'heure. Ali ibn Abi Talib était tellement saisi qu'il s'est enfermé chez lui avec Fatima, son épouse. Plus sorti, plus parlé avec personne. Uthman ibn Affan. Il est resté muet, il ne pouvait plus parler. Sakat. Uthman ibn Affan, il ne savait plus quoi dire, mais il est resté silencieux. Un tel point que Uthman ne comprenait plus ce qui se passait. Le hadith dit que j'étais près des Antam, près des frontières, des pylônes, des trucs de sentinelle de Madina, j'étais là-bas, et Umar ibn al-Khattab, après le décès du Prophète, après qu'Abu Bakr soit devenu calife, il est resté saisi, Uthman. Il dit que Omar est passé près de moi. Fasallama alayhi. Il m'a fait salam. Je n'ai même pas répondu à son salam. J'ai même pas remarqué que Omar est passé auprès de moi, qu'il m'a fait salam, tellement mon esprit était absorbé, était encore tétanisé par le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu l'histoire de Bilal. Il pouvait plus lire le adhan sans que les gens explosent en larmes. Et à un moment donné, il a arrêté complètement de donner le adhan. Fatima radiallahu anha n'a plus jamais souri après le décès de son père, après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Dhu'ayb al-Hudhali, c'est un tabi'in. C'est quelqu'un qui est arrivé à Madina le jour du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait qu'il n'est pas sahaba. Il n'a pas rencontré le prophète de son vivant. Il est tabi'in. Il dit, qadimtu al-Madina. Je suis arrivé à Madina avec l'espoir de rencontrer le prophète d'Allah. Je suis entré et j'étais étonné. J'entendais un bourdonnement envahissant dans toute la ville. Semblable qu'à Dwajij al-Hajij, ahallu jami'an bil-ihram. C'est comme les gens qui faisaient le talbiya, comme vous voyez 1 million de personnes qui lisent la baye. On entendait un bruit, un brouhaha de fond. Il a demandé, ma, qu'est-ce qui se passe? Et les gens disent, qubida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dit, toute la ville, sans exception, l'intégralité des habitants de Al-Madina al-Nabawiyya, s'était mis à pleurer à l'annonce du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était vraiment une douleur effroyable pour les sahaba. Maintenant que le prophète alayhi salat wa salam est décédé, maintenant les sahaba doivent faire face à une réalité, c'est les étapes, l'enterrement. Comment est-ce qu'on donne le roussal au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'on l'enterre? Où est-ce qu'on l'enterre? Vous savez, quand vous avez affaire à des gens qui sont déphasés, ils savent même plus, ils comprennent plus, ils n'ont plus d'éléments de réponse. Ils savent plus sur quoi s'appuyer. Le seul qui avait le recul, qui avait le ilm et qui avait vu les objectifs clairs du tawhid, Abu Bakr al-Siddiq, c'est lui qui va prendre les rênes de la Ummah, qui va dire le masla, c'est de cette façon. Le verset stipule telle chose, le prophète Sam a demandé que les choses se passent de telle et de telle façon. Et donc, la première chose que les sahaba ils vont faire après le décès du prophète sallam. Il y a eu un moment de flottement. Qui est le nouveau amir? Le prophète n'avait pas dit clairement, il avait dit en privé. Mais les sahaba, il y avait, ça c'est pas notre intervention, ça c'est un autre sujet. Ça a été fait, je crois, non, sur la vie d'Abu Bakr. Il y avait une divergence entre les muhajir et les ansar. Est-ce que c'est un amir muhajir? Est-ce que c'est un amir ansar? Mais sans qu'il y ait d'animosité. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab prend la main d'Abu Bakr et lève. Dites-moi, le deuxième candidat pour le khilafa, ça aurait été qui? C'était pas Abu Bakr. C'était Omar, oui, non. Mais Omar, Uthman, il cherche pas l'honneur. Il prend la main d'Abu Bakr, il lève et dit, qui est-ce qui pense que quelqu'un a plus de valeur, de vertu que cet homme? Qui est-ce qui était avec le prophète dans la grotte? Qui est-ce qui, et ainsi de suite, le sahaba à l'unanimité muhajir, en soi dit, c'est lui. C'est le meilleur parmi nous, c'est lui notre al. Ça, la décision a été prise, mais il y a eu un flottement. Le flottement, c'était la journée de lundi et mardi, parce que déjà, il fallait convaincre les gens que le prophète était décédé. Le sahaba, comme j'ai dit, il voulait pas accepter. Il fallait qu'Abu Bakr apporte les versets qu'on a cités en introduction pour que réellement ils comprennent que le prophète est décédé. Ça, c'était la première étape qui a pris du temps. Et la deuxième étape, c'était de se réunir pour désigner le amir et que les gens comprennent que c'est Abu Bakr et que chacun fasse le bay'a. Et les sahaba, les ulama disent, vous voyez l'importance du amir. Une umma ne peut rester même pas une nuit sans qu'il y ait de amir. La priorité pour eux, c'était qu'il y ait un amir qui donne la directive. Au moins, on sait quelle orientation prendre. Et après ça, ils se sont mis à s'occuper du corps Mubarak de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va dire que ça, il n'y a pas de divergence, c'est des hadiths, ça, c'est des descriptions assez rapides, on peut aller assez rapidement. Donc, comment est-ce qu'il fallait donner? Il y a eu une première question, comment donner le bain mortuaire? Est-ce qu'on le fait comme une personne ordinaire ou alors on n'a pas le droit de découvrir le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il dit que quelqu'un, je pense que quelqu'un a vu en rêve où il y a eu comme une voix qui est sortie, qui a dit, donc ça il faut vérifier l'authenticité, mais il y a eu un événement qui fait qu'ils ont eu le khabar un yaqin, ils ont eu l'information claire que pour donner le bain mortuaire au prophète alayhi salatu wassalam, il fallait le faire à travers ses vêtements. Qu'on n'avait pas le droit de découvrir le corps mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait mettre l'eau à travers le tissu, à travers ses vêtements et frotter avec le vêtement qui couvrait le corps, parce que le corps du prophète était béni et c'était un corps qui ne pouvait être découvert. Et donc la façon de donner le roussal était khususiyya, une spécificité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a fait venir de l'eau d'un puits qui appartenait à Sa'd ibn Khaythama radiallahu anhu. C'était un puits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait prendre de l'eau, donc pour boire, et on a amené de l'eau et donc on a donné le bain mortuaire. Qui est-ce qui a donné le bain mortuaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était Ahlul Bayt, les membres de sa famille. Les savants disent également que, idéalement, ce sont les proches qui doivent donner le bain mortuaire aux défunts, sauf si les proches ne savent pas faire, ne savent pas s'y prendre, et donc se faire assister par des gens qui ont l'habitude. Il y avait Ali ibn Abi Talib, Al-Fadl, Al-Abbas, d'autres versions, et on parle toujours de Ali, de Ibn Abbas, et de Usama ibn Zayd, radiallahu anhu. Donc, Ali ibn Abbas et Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, faisaient partie des personnes, des proches qui étaient présents lors du bain mortuaire. Ce sont eux qui ont donné le roussal, qui ont eu cet honneur de donner le roussal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était donc la première étape. La deuxième étape, c'était de savoir comment envelopper, dans quoi envelopper le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient mis d'abord un tissu sur le corps mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite ils ont changé, ils ont mis donc un kafan composé de trois pièces de tissu qui venaient de Kursuf, d'un endroit du Yémen, donc un tissu de couleur blanc. C'est dans ce tissu-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont utilisé ces trois pièces de tissu comme kafan pour linceul pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, troisième étape, maintenant, comment faire le namaz janaza? Alors, la salat janaza sur le prophète alayhi salatu wassalam s'est déroulée également d'une façon particulière. Et c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une namaz janaza qui s'est déroulée sans imam. Il n'y a pas eu de imam pour la salat janaza. C'était des groupes de 10 personnes qui entraient par une porte et ils faisaient individuellement salat ala al-mayyit. Et ensuite, ils ressortaient. D'abord, c'était Ahlul Bayt, les membres de la famille, les messieurs. Ensuite, il y avait les dames, les enfants, même les esclaves, ce qu'on appelait entre guillemets esclaves. Eux aussi, ils avaient ce droit. Ils sont venus faire leur salat janaza sur leur prophète qui les avait quittés. Donc, c'était une spécificité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une namaz janaza accomplie sans imam, mais individuellement par l'ensemble des sahaba qui étaient présents. Hada. Étape suivante, la façon d'enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première question, où enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait divergence entre les croyants, et c'est Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu qui a donné l'indication, dit « Ma nasitu, je n'ai pas oublié ce que mon prophète m'avait dit une fois, dit que lorsqu'un prophète meurt, il doit être enterré à l'endroit où il est décédé, donc dans le hujra, dans la maison de Aisha radiallahu anha. » Et une fois de plus, les sahaba ont réalisé qu'Abu Bakr c'était vraiment a'lamuhum, celui qui avait le plus de ilm, le plus de connaissances. Autre masla, autre divergence, comment enterrer? Vous savez qu'il y a deux façons d'enterrer. Il y a soit la façon qu'on fait ici, on creuse, on met le défunt, on couvre et puis on enterre, ou alors l'autre c'est al-lahd, c'est que le corps est mis de façon un petit peu latérale à l'intérieur et puis on met des briques. Donc ils ne savaient pas de quelle façon enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont fait appel à Abu Ubaida, Amir, Ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, qui avait l'habitude d'enterrer les gens à Makkah. C'était lui qui enterrait les gens à Makkah. Donc, et à Makkah, ils avaient l'habitude de creuser, comme nous on fait ici, à La Réunion. Makkah, par rapport peut-être à la consistance de la terre, ils creusaient, donc comme nous. Et à Madina, celui qui creusait, c'était Abu Talha. Et ils ont envoyé donc quelqu'un appeler les deux personnes et ils se sont dit que ben, la première personne qui arrive, ben, on va faire de la façon qu'il propose. Et effectivement, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah n'est pas venu tout de suite. C'était Abu Talha qui est venu en premier. La façon d'enterrer des gens de Madina, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré de cette façon, l'ahd, où le corps est mis d'une certaine façon. Et si je me trompe pas, dans un hadith il est cité, ils ont mis 7 briques entre l'endroit où le corps Mubarak Hassan était mis, et il y avait donc 7 briques. C'était une façon d'enterrer comme ils le font toujours dans les pays arabes où il y a une certaine consistance donc du sol. Autre point également, ils avaient mis un tissu que le prophète avait l'habitude d'utiliser, si je ne me trompe pas, il était de couleur rouge, dans la tombe, je ne sais pas, apparemment c'était sous le corps Mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre point également, la façon d'enterrer le prophète sallam. Est-ce que c'était at-tasnim? Est-ce qu'il fallait l'enterrer et que quand on enterre ça fait comme une petite bosse, ou alors il fallait aplanir sa tombe? Et là aussi, ils ont su que la façon qui est plus proche de la sunna, la bonne façon d'enterrer, c'est que après avoir enterré, il faut que il y ait une petite bosse de terre sur le qabr, sur la tombe. Donc tout ça, les sahaba, chaque fois ils faisaient mashwara. Chaque fois ils se concertaient comment est-ce qu'on procède pour telle étape. Et donc les personnes qui ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était les personnes suivantes, si on retrouve le nom, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais c'était Ahlul Bayt, je l'ai. C'était Ali ibn Abi Talib, c'était Al-Fadl ibn Al-Abbas, c'était également Qutham, un autre fils ibn Abbas, Shukran, c'était une personne qui était, on va dire, qui travaillait, un khadim du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Usama bin Zayd et Aws ibn Khawli. C'était radiallahu anhum ajma'in. Ces personnes-là étaient présentes pour l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont procédé à l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à travers cette compilation de hadiths et de descriptions des ulama de la sira, nous avons vu le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu surtout comment est-ce que les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in étaient profondément attachés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils aimaient beaucoup plus que leur propre famille, que leurs proches. Quelle leçon on doit retenir? Nous devons travailler absolument notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas juste à constater, ah, les sahaba les mettent comme ça. On doit aller au-delà de cette réflexion. Les sahaba les mettent comme ça. Donc, moi en tant que mu'mine, je dois aussi aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que parmi les conditions d'achadu anna Muhammad al-Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le prophète d'Allah, parmi les conditions, c'est aimer le prophète et suivre et le prendre comme modèle, le suivre. Donc, nous devons prendre cette résolution d'augmenter, de travailler notre amour pour le prophète sallam, et cet amour pour le prophète va se traduire à travers notre pratique assidue de la sunna et l'étude de sa vie. Parce qu'en plus on étudie sa vie, plus on connaîtra l'homme, on connaîtra ses qualités, on pourra les mettre en pratique. Deuxième leçon, on va dire à retenir, nous avons vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner beaucoup d'importance au tablir, au risal, à la propagation de la mission. Il fait un khutbah à Arafat, un khutbah à Mina, il refait un khutbah au retour à Radel Khom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la maladie de sa mort, il a pris un bain, il va faire encore un khutbah, il va informer les sahaba, il veut faire écrire quelque chose. Le prophète, pour lui, la priorité, c'était tablir al-risal, c'était enseigner le haq, la vérité. Et avant de mourir, dans le pèlerinage d'adieu, il avait dit aux musulmans, vous attestez, Est-ce que vous êtes témoin que j'ai propagé? J'ai dit oui, au prophète d'Allah, nous sommes témoins. Et à partir du moment où il y a eu, nous attestons, pardon, à partir du moment où il a dit cette phrase, le amana, le dépôt de la propagation de la religion repose maintenant sur les épaules de la Ummah. C'est à nous de faire le travail de tablir al-risala, de propager le ilm, de propager la mission de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu également comment le prophète était attaché à la salah, même dans les derniers instants de sa vie. Inconcevable qu'un musulman se couche le soir sans prier. Inconcevable qu'un musulman décide délibérément de ne pas faire Salatul Fajr parce qu'on est dimanche, on est lundi férié. Ça, c'est inimaginable. Comment le prophète de la maladie de sa mort, il donnait une priorité et au moment de mourir, parmi les derniers conseils, As-salah, As-salah, il rappelait aux musulmans l'importance des prières. Avant, quand le prophète a reçu les signes de la part d'Allah qu'il allait mourir, notre prophète faisait encore plus d'efforts de les bonnes actions. Les savants disent, mais où sommes-nous par rapport au prophète? Assurément, quand nous voyons que nous avançons un peu dans l'âge, nous devons augmenter notre quota de bonnes actions avec espoir qu'Allah nous accepte. Également, le prophète faisait encore plus de doigts. Les doigts qu'on dit, subhanallah, bihamdi, astaghfirullah, wa atubu ilayh. Il est du devoir également du musulman de lire ce doigt régulièrement et de demander d'une manière générale, par d'autres formules s'il le faut, beaucoup istighfar. Plus on avance dans l'âge, on doit demander istighfar parce que plus on devient âgé, le moment de mourir s'approche, Allah seul le sait, donc on doit faire en sorte de demander le maximum d'istighfar. Le prophète n'avait pas de péché, mais il demandait quand même istighfar à Allah Azza wa Jal. Nous avons vu également comment le prophète aimait Abu Bakr al-Siddiq. Il n'acceptait personne d'autre si ce n'est Abu Bakr al-Siddiq. Et comment le prophète sallam aimait Aisha radiallahu anha. Et nous devons avoir de l'amour pour ces deux personnes dans nos cœurs et nous devons être prêts à défendre leur intégrité quand des personnes osent porter atteinte à l'honneur d'Abu Bakr ou de Aisha radiallahu anhum ajma'in. Nous avons vu que le prophète a vécu Sakaratul Maut et chaque croyant doit passer par cette étape et avoir cet espoir que cette étape se passe bien et qu'on puisse répondre par la suite, hein, pour qu'on puisse rester ferme de la foi jusqu'à ce que l'ange de la mort reprenne notre ruh, reprenne notre âme. Également, le grand espoir, on terminera avec ça, nous devons avoir ce raja, cet espoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour nous le jour de Qiyam. Une fois, un sahaba avait demandé au prophète d'Allah, « Mata as-sa'a, quand aura lieu le Qiyam ?» Le prophète sallam a demandé, « Qu'est-ce que tu as préparé pour le Qiyam ?» Tu poses des questions, « Quand aura lieu le Qiyam ?» Tu as préparé quoi pour ce moment fatidique? Il a dit au prophète d'Allah, « Hubbullahi wa rasouli, j'aime plus que tout au monde Allah et son prophète. » Le prophète sallam a dit, « Al-mar'u ma'aman ahabba. » Sache que l'homme sera avec qui il aime. C'est un hadith magnifique. On déduit rapidement à travers ce hadith que sahaba, ils avaient compris qu'il faut que le cœur soit habité par l'amour d'Allah et son prophète. Avant de dire, je fais telle chose, je prie la nuit, je fais des jeûnes en plus, j'ai l'amour pour Allah et son prophète dans mon cœur, ça c'est une étape essentielle à nous de le développer, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on sait que plus on aime Allah et son prophète, on a des chances d'être ressuscité, d'être auprès, inshallah, de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Qiyama. Et enfin, grand espoir que nous devons avoir, que le prophète intercède pour nous le jour de Qiyama et qu'il nous invite à boire du fleuve de Kawthar. Ça, c'est un dua que nous devons demander à chaque prière. C'est une priorité de le dua que le jour de Qiyama, le prophète me reconnaît par la lumière qu'il y aura sur le visage de chaque membre de sa Ummah, chaque individu de sa Ummah par rapport aux ablutions, par rapport au salat, et que le prophète m'invite pour boire de son fleuve de Kawthar et qu'il intercède pour moi afin que je puisse accéder au paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles et qu'Inch'Allah l'intégralité de ce qui a été dit ou alors une grande partie pénètre nos cœurs et que naisse réellement de notre cœur l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envie de connaître encore plus sa vie et d'étudier sa sira afin de comprendre ses réactions, de comprendre sa façon d'agir dans toutes les situations de la vie et qu'on puisse mettre en pratique que nous devenons de fervents pratiquants de la sunnah. Allahumma amin wa ma tawfiq illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.